Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 7h. Bon réveil.
On fait passer au second plan la santé des personnels dans les écoles primaires.
Soulagement pour les parents, mais inquiétude pour les enseignants. Le protocole sanitaire est allégé à l'école à partir de demain. Plus de fermeture de classe quand un élève est positif. Premier week-end de reconfinement en Israël, en pleine période de fête. Un gros coup au moral pour les habitants. Reportage de notre envoyé spécial à Jérusalem, Gwendoline De Bono. La prise d'otage de l'hypercacher devant la cour d'assises spéciale de Paris et une polémique autour de l'audition aujourd'hui de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Dans ce journal, gros plan sur les aidants à l'occasion de la journée mondiale sur la maladie d'Alzheimer et puis la victoire du surdoué slovène dans le Tour de France Tadej Pogacar, son compatriote Roglic est deuxième, et des soupçons de dopage, info ou intox. Nous serons en direct en Slovénie avec Théo Manval.
Juste après ce journal, Bridgestone est face aux pneus chinois. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour réagir? L'éclairage éco de Nicolas Barré. Retour sur les sanctions contre l'Iran dans le regard international de Vincent Hervouet. Le Tour vient de donner la meilleure réponse possible à ses détracteurs. L'édito sport de Virginie Fulpin avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Près de 90 établissements scolaires, plus de 2000 classes fermées dans toute la France et des situations très compliquées à gérer pour les parents. Le ministère de l'Éducation décide donc d'alléger le protocole sanitaire à partir de demain pour les écoles maternelles et élémentaires.
De nouvelles règles qui s'appuient sur l'avis du Haut Conseil pour la Santé publique, selon lequel les enfants sont peu actifs dans la circulation du virus. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Réponse Romain Oquet.
Avec ce nouveau protocole, un cas positif au coronavirus n'entraînera plus la fermeture de la classe. L'enfant contaminé sera le seul isolé pendant 7 jours. Les autres élèves et le professeur ne seront quant à eux plus considérés comme des cas contacts. Une fermeture de classe, voire d'école, pourra être décidée seulement à partir de 3 cas confirmés dans une même classe. Un assouplissement des règles précipité, s'inquiète Jean-Rémy Girard, président du SNALC, un syndicat d'enseignants.
On fait passer au second plan la santé des personnels dans les écoles primaires. À force de se côtoyer, même si les enfants contaminent peu, est-ce que à l'arrivée, ils vont pas risquer quand même de contaminer les adultes qui sont à l'école et eux peuvent contaminer beaucoup plus de monde. Donc le risque est là. Est-ce que c'est un risque mesuré? C'est loin d'être certain.
De son côté, le ministère s'appuie sur l'avis du Haut Conseil de la Santé publique. Les enfants sont moins contagieux que les adultes et le risque de transmettre le virus est plus faible. Inutile donc, estime le gouvernement, de continuer à renvoyer autant d'écoliers chez eux. Depuis la rentrée, près de 90% des établissements fermés sont des écoles primaires ou maternelles.
Si la France allège un peu les mesures à l'école, d'autres pays serrent la vis. Au contraire, l'Espagne, qui oblige désormais 850 000 habitants des quartiers sud de Madrid à rester dans leur quartier, sauf nécessité.
Et puis Israël qui, depuis vendredi, a décidé de reconfiner toute la population pour 3 semaines. Une décision qui coïncide avec les fêtes juives et qui est plutôt mal vécue par les habitants. Écoutez le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Gwendoline De Bono.
Il y a encore quelques semaines, Sarah se réjouissait à l'idée de ce week-end. Une grande table pour fêter Rosh Hashana, la nouvelle année juive. Elle et sa famille ont bien trouvé une astuce pour la célébrer, mais le cœur n'y est pas.
Moi et ma famille, on a fêté Rosh Hashana une nuit avant le confinement. Comme ça, on a pu se rassembler tous ensemble. Mais c'est une situation étrange. Je ne crois pas que le confinement va durer seulement 3 semaines.
L'incertitude épuise les Israéliens et le reconfinement alimente la colère. Devant la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou hier soir, des manifestants réclament sa démission.
C'est un confinement politique, c'est une excuse pour le Premier ministre qui est dans l'échec. Et au lieu de gérer les problèmes, il nous impose un second confinement.
Derrière les pancartes, il y a les difficultés, le niveau de vie qui baisse à mesure que l'épidémie progresse.
Ma fille est architecte, son cabinet l'a mise au chômage technique pour 3 mois, alors je l'aide. Son mari est chef cuisinier dans un restaurant qui a fermé. Si le confinement se poursuit, est-ce que c'est encore le chômage qui les attend?
Ici, on compte désormais sur la solidarité. La confiance dans les autorités semble brisée. Jérusalem, Gwendoline De Bono, Europe 1.
7h04 sur Europe 1. La prise d'otage de l'hypercacher au cœur des débats à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. C'était le 9 janvier 2015. 4 hommes avaient été tués.
Et cet après-midi, une invitée de dernière minute est prévue à l'audience. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne fait pas l'unanimité. Il s'agit de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui doit être entendue à la demande d'un avocat des parties civiles. Chloé Triomphe, de nombreuses voix s'élèvent pour se demander quelle est l'utilité d'une telle audition.
Ah oui, c'est la question qui a occupé tous les avocats en marge de l'audience et qui n'en finissait pas encore ce week-end d'alimenter la polémique. Maître Daphné Pugliesi, l'une des avocates de la défense, est celle qui a lancé publiquement la fronde.
Anne Hidalgo n'a pas été un témoin direct des faits. Elle n'a pas assisté à plus d'événements, je pense, que notre président de l'époque, M. François Hollande, ou que M. Bernard Cazeneuve. Donc nous ne comprenons pas trop les raisons de sa venue à cette audience, qui déjà est d'ailleurs très surchargée.
Il n'y a qu'un pas pour que certains se demandent, y compris côté parti civil, si les intentions de la maire de Paris pourraient avoir une autre raison, plus politicienne, maître Samia Maktouf.
J'espère que ce n'est pas une tribune que s'offre madame la maire de Paris dans un procès aussi emblématique, un procès historique pour les partis civils. Je ne sais pas ce qu'elle aura à dire pour contribuer à la manifestation de la vérité.
Sauf défection de dernière minute, Anne Hidalgo est donc attendue de pied ferme par une partie des avocats à 16h cet après-midi.
Chloé triomphe. Deux personnes toujours portées disparues ce matin après l'impressionnante montée des eaux dans le Gard ce week-end. Des centaines de personnes ont dû être évacuées. La situation revient progressivement à la normale.
C'est une journée importante à Béthune, dans le Pas-de-Calais, pour le site de Bridgestone et ses 863 salariés. Le gouvernement, les élus locaux et les syndicats se retrouvent avec l'espoir d'éviter la fermeture du site du géant japonais du pneu.
Ce 21 septembre marque la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Et ce matin sur Europe 1, on se penche sur le rôle des aidants, conjoints, enfants, tous ceux qui se consacrent nuit et jour à leurs proches, avec souvent l'impression d'être totalement démunis.
Pas facile d'appeler à l'aide, de reconnaître ses failles aussi. Pas facile non plus de laisser entrer un étranger dans l'intimité du foyer. Comme à Toulouse, où Benjamin Péter a rencontré André, qui s'occupait seul de sa femme, mais qui a finalement accepté d'être épaulé.
Pour elle, elle n'est pas malade. Mais à la maison, il va falloir tout surveiller. Tout. Je lui dis quelque chose, elle va faire le contraire. C'est épuisant au bout d'un certain temps.
Et cet épuisement, c'est la fille d'André qui l'a remarqué. Alors depuis quelques semaines, quelqu'un vient aider sa femme Betty à travailler sa mémoire 2 heures par semaine. Une option à laquelle il n'avait même pas pensé.
J'avais pensé pour le jardin et puis un petit peu de ménage et tout ça. Et j'avais pas pensé que des personnes pouvaient venir pour l'aider à ce niveau-là. Bien sûr, ça fait du bien, oui. Moi, je vais voir des collègues et tout. Ça fait souffler, voilà.
Il n'a pas été facile de faire accepter à son épouse que désormais quelqu'un viendrait à la maison pour Audrey Simon de WeHelp. Il faut créer un lien avec la personne malade pour que elle, comme l'aidant, accepte cette aide extérieure.
C'est toujours très compliqué parce qu'en général, la personne malade se dit non, moi j'ai besoin de rien, se rend pas compte que l'aidant est épuisé. C'est là où il faut la rassurer, leur dire que effectivement, faire venir quelqu'un chez eux dans leur intimité, c'est très compliqué. Et ça, on en a conscience. Et que si le lien ne se crée pas, dans ces cas-là, il faut nous le dire pour qu'on trouve une autre personne.
Et selon elle, il ne faut pas hésiter non plus à se renseigner avant auprès des structures, savoir à quelles aides on peut prétendre pour ne pas mettre en place ces solutions dans l'urgence. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Et on fera le point sur les dernières pistes de recherche sur la maladie d'Alzheimer dans le journal de 8h tout à l'heure.
Un sacré cadeau d'anniversaire pour Tadej Pogacar, 22 ans aujourd'hui, plus jeune vainqueur du Tour de France depuis 1904. Il a devancé son patriote slovène Primož Roglič, avec d'impressionnantes performances qui ont fait naître une certaine suspicion.
D'anciens coureurs ont même exprimé des doutes ouvertement sur des pratiques de dopage. Bonjour Théo Manval.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Slovénie. Avec vous, on va prendre le temps de faire le point sur ces soupçons. Il faut dire que le pays a un bilan des plus lourds en termes de contrôle positif dans le cyclisme ces dernières années.
Oui, l'an dernier, la Slovénie était le deuxième pays au monde avec le plus de coureurs contrôlés positifs. 8 sur 19 au plus haut niveau suspendus pour dopage ces 10 dernières années. C'est énorme. La faute notamment à des managers prêts à tout. J'ai rencontré le vice-champion d'Europe espoir du contre-la-montre. Il s'appelle Isidor Penko, il a 24 ans. Il a préféré arrêter sa carrière il y a 2 ans, ne jamais passer pro parce qu'il ne voulait pas franchir la ligne jaune.
J'ai toujours été propre et je ne voulais pas risquer ma santé. Je ne voulais pas faire certaines choses. Donc je ne voulais pas avoir affaire à certains managers. J'avais de bons résultats, mais du coup, aucun des managers influents n'a voulu de moi. Ça m'a dégoûté du cyclisme.
Et quelle importance vous pensez qu'ils ont encore dans le milieu, ces gens-là ?
Du temps où je courais, assez grande. S'ils te trouvent intéressant, ils viennent te dire, on te trouve une petite équipe, tu y restes un an ou deux, et après on te fera passer pro. Là, c'est à toi de voir ce que tu veux faire.
Et ce jeune coureur, Théo, il a des soupçons sur Roglic ou Pogacar ?
Alors il dit clairement non, il courait chez les jeunes dans la même équipe que Pogacar il y a encore 3 ans et comme beaucoup de gens ici, il l'a toujours connu vraiment au-dessus du lot. C'est aussi ce que m'a dit le patron de l'agence slovène antidopage qui rappelle que Roglic et Pogacar sont suivis de très près et que leur nom n'a jamais été cité dans la moindre enquête. Mais il fait aussi un constat très amer cet homme, Janko Dvorak, sur les efforts, les contrôles au plus haut niveau.
Cette année on a fait 500 tests chez les pros et seulement 1,5% sont revenus positifs. C'est le même chiffre en moyenne dans le monde. Donc ça pose la question de l'efficacité de nos tests. L'aspect scientifique aujourd'hui, c'est le point faible de la lutte antidopage. C'est très difficile de dire ça pour moi, parce que c'est mon travail et j'essaie de faire au mieux. Mais c'est un problème trop grand pour nous.
Voilà, terrible constat d'impuissance du patron slovène de la lutte antidopage équivaut, dit-il, pour tous les pays à travers le monde.
Merci Théo Manval, envoyé spécial d'Europe 1 en Slovénie.
Allez, le foot, hein, partout entre Marseille et Lille hier soir. Saint-Etienne est en tête du classement de Ligue 1 à égalité avec Rennes. Sachez aussi que les qualifications de Roland-Garros commencent aujourd'hui, mais 5 joueurs sont déjà exclus. 2 cas positifs, 3 cas contacts. On ne connaît pas leur nom.
Merci beaucoup Hélène Zelani. C'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
C'est la première femme à accéder à ce poste. La présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, vient d'être élue à la tête du COPA, le principal syndicat agricole européen. Et elle est sur Europe 1 ce matin. Conseil des ministres de l'agriculture aujourd'hui, relance verte, néonicotinoïdes, mais aussi les échanges internationaux, le Brexit ou les discussions autour de la politique agricole commune. Christiane Lambert, invitée du tête-à-tête Europe Matin à 7h40 tout à l'heure. Tout de suite, l'éclairage éco de Nicolas Barré et le regard international de Vincent Hervouet. Bon réveil.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h13 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
2 ministres seront aujourd'hui dans l'usine de pneumatiques de Bridgestone à Béthune, dans les Hauts-de-France. Le gouvernement tente de peser sur le destin de cette usine que la direction voudrait fermer.
Oui, alors tout ça, vous allez me dire, c'est un classique, mais il y a derrière ça beaucoup d'hypocrisie. D'abord, et avant tout, parce que si l'usine de Béthune est condamnée, c'est parce qu'elle subit de plein fouet la concurrence chinoise qu'on a laissé s'installer sur ce segment des pneus de moyenne gamme. Ça fait des années que les géants européens du pneu, comme Michelin ou Continental en Allemagne, alertent sur le dumping chinois, réclament des enquêtes car ils ne se battent pas à armes égales, dénoncent les barrières et le pillage technologique qui existent en Chine, alors que le marché européen est grand ouvert. Les Chinois ont bâti en 20 ans une industrie du pneu qui aujourd'hui est massivement excédentaire. Leur seule planche de salut, c'est d'inonder les marchés occidentaux.
Et c'est ce qu'ils font depuis le début des années 2000.
Oui, et voilà pourquoi ce qui se passe à Béthune est tout sauf une surprise. L'Europe est une cible. Pékin a identifié quelques secteurs clés dans lesquels il vise la domination mondiale. L'industrie du pneumatique en fait partie. D'ailleurs, en 2015, les Européens ont laissé s'introduire en Europe un cheval de Troie. La société chinoise Chem China est devenue cette année-là l'actionnaire principal de Pirelli, le numéro 3 italien du pneu européen. Chem China, ça n'est pas rien. C'est une société d'État dirigée par un haut cadre du Parti communiste. C'est un géant de la chimie qui a aussi racheté en 2016 le groupe suisse Syngenta, qui est l'un des leaders mondiaux des semences pour l'agriculture, secteur stratégique également. La fermeture de Béthune, finalement, c'est la conséquence d'un plan de conquête rondement mené depuis plusieurs années par l'industrie chinoise.
Et on se réveille trop tard, Nicolas ?
Alors, on peut toujours imaginer qu'avec beaucoup d'argent, et on dit qu'il faudrait investir 200 millions d'euros, c'est gigantesque. On pourrait sauver le site, oui, mais ça soulèvera une autre question que personne ne pose. Pourquoi aider un groupe japonais, Bridgestone est japonais, avec l'argent du contribuable, alors que nous avons un champion français, Michelin, qui est confronté lui aussi au même défi. Aller demander ce qu'on en pense à La Roche-sur-Yon en Vendée, où Michelin est en train de fermer en ce moment même une usine qui employait plus de 600 personnes. Vous voyez, avant d'aider le concurrent japonais de Michelin, peut-être faudrait-il voir plus large et se demander comment sauver toute l'industrie européenne du pneu, menacée par une concurrence déloyale.
Cette réunion Bridgestone à Béthune, aujourd'hui nous la suivons, nous serons en direct sur place dans le journal de 8h tout à l'heure. Merci Nicolas Barré. 7h16, le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les États-Unis considèrent que les sanctions de l'ONU contre l'Iran sont rétablies. Mike Pompeo est le seul à le penser, mais il menace de châtier ceux qui ne respecteront pas l'embargo.
Il y a des mauvaises foi qui sont bluffantes et l'acrobatie juridique exécutée par Mike Pompeo laisse pantois. C'est un cas presque parfait d'impérialisme juridique. La Chine et la Russie font mine d'avoir des haut-le-cœur, les Européens s'étranglent et ils sont sincères, car c'est leur principal allié qui les menace. Du coup, on se demande, est-ce que c'est l'Iran avec ses centrifugeuses ou est-ce que c'est l'Amérique de Trump qui défie le monde? La question taraude tous ceux qui expliquent depuis 4 ans que Donald est le dieu du chaos, qu'il est prêt à tout pour se faire réélire en novembre, notamment pour plaire aux électorats juifs et évangéliques.
Si Joe Biden est élu, il se dit prêt à rouvrir des négociations avec l'Iran.
Et le point de départ des négociations sera l'accord de Vienne, pas l'horizon indépassable, le point de départ. Autrement dit, Joe Biden est d'accord avec Donald Trump sur le constat, l'accord signé par Obama, par la France, etc. est insuffisant, dangereux. Il faut parler notamment des fusées qui mettront un jour l'Europe ou la Californie à portée de tir. Donald Trump aussi veut négocier avec les Mollahs. Il leur promet la fortune, c'est pour lui le paradis sur terre. Et le comble, c'est que les Iraniens sont désormais d'accord pour renégocier. Après tout, le président Rouhani lui aussi est en campagne électorale et il faut une perspective aux Iraniens que la crise économique et l'épidémie de Covid ont mis à genoux. Tout le monde veut négocier, mais plus tard, en attendant, on ment et on fait des phrases.
Les Iraniens se moquent de l'isolement des États-Unis ?
La jubilation iranienne est intense, leur porte-parole retourne contre les Américains les éléments de langage habituellement réservés aux Mollahs, ils dénoncent les actions irresponsables, ils parlent du régime de Washington, ils déplorent qu'ils soient du mauvais côté de l'histoire et ils conseillent aux États-Unis de retourner au sein de la communauté internationale et d'arrêter de se rebeller. C'est de l'humour perse et le meilleur, c'est de pouvoir dire aux Iraniens « Regardez comme le grand Satan est fourbe et voyez comme le monde nous trahit. Un menteur, menteur et demi. »
Merci Vincent Hervouet, 7h18. À suivre, Virginie Fulpin salue cette édition du Tour de France dans l'édito sport avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 7h21 et c'est l'heure de l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
Le Slovène Tadej Pogacar remporte le Tour de France. Il a renversé le leader Primoz Roglic samedi dans une étape dingue avant d'aller cueillir ses lauriers hier sur les Champs-Élysées. Pour vous, le Tour de France a apporté la meilleure réponse possible à ces si nombreux détracteurs cette année ?
Bah excusez-nous messieurs, mais oui, nous pauvres petits mortels amoureux du Tour de France, on a chaviré ce week-end. On était peut-être affalés sur nos canapés, comme certains d'entre vous aiment tant nous caricaturer, mais qu'est-ce qu'on a vibré ? Vous devriez essayer de vivre ce genre de moment. Parfois, je suis persuadée que ça vous ferait du bien. Voir un coureur de 22 ans aujourd'hui s'imposer contre toute attente, c'est une façon de croire à nouveau que tout est possible dans la vie. Avouez que ça nous change du refrain morose de cette année 2020. Pourtant, on était un peu blasés avant cette étape de samedi. On était persuadés de connaître déjà la fin de l'histoire, le sacre annoncé de Primoz Roglic et de son équipe Jumbo-Visma qui nous sortait un peu par les yeux, hein, avec sa suffisance, son emprise sur le peloton et les soupçons qui accompagnaient ses démonstrations de force. Et puis là, un gamin slovène est venu renverser le plateau promis à son compatriote. Tadej Pogacar nous a transportés de joie devant un final inattendu et transportés des années en arrière. Parce que je suis sûre que dans de nombreuses familles, on s'est passé un petit coup de fil pour se rappeler le souvenir du Tour 1989. Les plus jeunes peuvent enfin comprendre ce que leurs aînés ont vécu quand Greg LeMond a soufflé la victoire à Laurent Fignon pour une poignée de secondes. Oui, messieurs, c'est ça aussi le Tour. Un partage entre générations au cœur du paysage français, si français. C'est beau le sport vu comme ça.
Et puis le fait que l'équipe Jumbo-Visma ne remporte pas le Tour est une bonne nouvelle aussi pour vous.
Cette équipe si sûre d'elle n'a fait qu'alimenter les soupçons, hein, tant elle nous a rappelé l'US Postal de Lance Armstrong, tout écrasé sur son passage, jouer les tyrans dans le peloton, tout y était. Quand on croyait la victoire acquise à cette équipe bâtie sur les ruines dopées de la Rabobank, oui, on avait du mal à se réjouir pleinement. Tadej Pogacar nous a évité ça. Alors je ne sais pas s'il est propre ou pas, hein. Il a apporté un vent de fraîcheur, mais le soupçon est toujours là. Il accompagne chaque vainqueur du Tour, la faute à une histoire trop souvent nourrie de scandales. Vous voyez, messieurs les détracteurs, la passion n'empêche pas la mesure, en tout cas beaucoup moins que l'aigreur, visiblement. Je ne sais pas à quoi ressembleront les lendemains du Tour, ni nos lendemains à tous, mais laissez-nous profiter de ce moment de bonheur, d'une boucle bouclée en pleine pandémie, qui nous redonne un petit peu d'espoir.
Merci Virginie Fulpin. Et à 7h23, nous retrouvons Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
J'ai pensé à vous ce week-end.
Pourquoi donc ?
Journée du patrimoine, je me suis dit pour Stéphane, ça doit être la Coupe du Monde. Non,
oui, c'est un peu ça. J'étais sur tous les fronts. J'en ai vu de la pierre. Enfin, bonjour Mathieu, bonjour. Et imaginez-vous que c'est la Saint-Mathieu. Alors, bonne fête d'ailleurs à tous les Mathieu.
Merci Stéphane, vous êtes le premier ce matin.
Mais les Mathieu, voyez-vous, sont des êtres sympathiques, exquis, dotés d'une intelligence hors norme. Vous l'avez compris, même si je vous souhaite sincèrement votre fête, je fais un tout petit peu mon faillot. Cette expression « faire son faillot », vous savez d'où elle vient ? Absolument pas. Et bien de la marine militaire du 19e siècle. En raison de son coût très faible, on servait très souvent à bord des faillots, qui en étaient d'ailleurs en plus très faciles à conserver.
Ça c'est vrai, mais ça ne dit pas pourquoi on dit faillot pour désigner une personne qui essaye de bien se faire voir par sa hiérarchie.
Oui, j'y viens Mathieu. Oui, les Mathieu, je sais, ont du talent, mais ils sont impatients aussi. Les faillots n'étaient vraiment pas appréciés par les marins. Et pourtant, une fois leur contrat terminé, malgré les perspectives alimentaires peu motivantes, il faut bien le dire, ils se réengageaient quasi systématiquement. Donc, en acceptant les conditions difficiles proposées par leur patron, ils devenaient des faillots, c'est-à-dire des personnes peu contrariantes et soumises à leur chef. Aujourd'hui, en Angleterre, comme chez nous d'ailleurs, on utilise l'expression « a bootlicker ». Bon, je préfère le dire en anglais, un lèche-botte si vous voulez. Au Québec également, comme chez nous, mais dans un langage plus fleuri que j'ai du mal à vous dire le matin très tôt, on dit un lèche-cul. Voilà, quant à moi, si j'ai parfois la réputation d'être un faillot, c'est peut-être parce que mes phrases sont en une syntaxe particulière, un sujet, un verbe, un compliment.
Merci Stéphane Bern. 16h tout à l'heure, vous serez avec Mathieu Noël, un autre Mathieu. Souhaitez-lui bonne fête pour moi.
Oui, je le ferai évidemment. On réunit pour la première fois des deuxièmes célébrités. Alexander Graham Bell, qui, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'a pas été le premier à inventer le téléphone. Buzz Aldrin, qui n'est pas le premier à avoir posé le pied sur la Lune, mais le deuxième homme. Et Bill Gates, qui n'est plus le pauvre que le deuxième homme le plus riche du monde. C'est dans le classement Forbes. Bref, on vous raconte toute l'histoire sans se la raconter. Et c'est à 16h avec Mathieu Noël.
Historiquement vôtre. À tout à l'heure, Stéphane. 7h25. Vous restez bien sur Europe 1 à suivre la météo et un nouveau journal avec Sophie Echen. 7h29 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et puisque Stéphane a vendu la mèche, moi je vais vous dire ce qui se passe à la Saint-Mathieu, puisqu'il y a un dicton du Beaujolais qui dit « Si Mathieu pleure au lieu de rire, le vin en vinaigre vire ». Bon, alors donc, comme je sais vous avez souvent le sourire, on est tranquille pour avoir un bon vin à la fin de l'année. Je voudrais vous dire que justement aujourd'hui c'est un jour important, parce que c'est la veille de l'automne. L'automne c'est demain matin, et nous aurons donc une journée automnale et surtout un temps automnal, puisqu'à partir de demain, incroyable, hein, la météo s'accorde avec le calendrier. À partir de demain, les températures vont commencer à baisser. Et ensuite, ça va aller de mal en pis, de mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il va faire de plus en plus frais. Pas froid, frais. Le soleil sera là aujourd'hui sur le Nord Picardie, la Normandie, la Champagne-Ardenne, la région parisienne, la Lorraine, l'Alsace et la Bourgogne. Sur toute la moitié sud, attention, il y aura des orages dans l'après-midi avec des gros nuages. Et puis une période intermédiaire, région lyonnaise, Bretagne, Pays de la Loire, où ce sera coussi coussa. Les températures entre 22 et 28 degrés.
Merci beaucoup mon cher Laurent.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, il est 7h30, un nouveau journal.
Je fais le ménage là-dedans, de façon très 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 claire.
La réponse d'Éric Dupond-Moretti lorsqu'on lui demandait en juin ce qu'il changerait dans la magistrature s'il était ministre de la Justice. Désormais, c'est fait. Le garde des Sceaux présentera ce matin ses pistes pour réformer l'École nationale de la magistrature. Quatrième semaine au procès des attentats de janvier 2015, consacrée celle-ci à la prise d'otages de l'hypercacher. Des brigades antifêtes à Rennes pour limiter les rassemblements d'étudiants à la sortie des bars. Et puis la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Vous entendrez le témoignage d'une femme qui a tout abandonné pour accompagner son mari.
Juste après ce journal, le tête-à-tête Europe Matin avec Christiane Lambert, présidente de la FNSEA et désormais du COPA, le principal syndicat agricole européen. Connaît-on un moment Xavier Bertrand, l'édito politique de Nicolas Bétou, avant de retrouver Nicolas Canteloup, qui coach à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk. Ce matin, Stéphane Richard, PDG d'Orange. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'École nationale de la magistrature dans le viseur d'Éric Dupond-Moretti, c'est le premier gros chantier du nouveau ministre de la Justice. Il doit annoncer ce matin ses pistes pour réformer la formation des juges et des procureurs. Guillaume Bié, on sait déjà ce qu'il souhaite mettre en place.
Oui, en fait, Éric Dupond-Moretti voudrait en finir avec ce qu'il appelle la République des juges. Il l'a déjà dit, il voudrait une séparation claire entre d'un côté les magistrats du siège, les juges, et de l'autre ceux du parquet, les procureurs. car selon lui, leur formation commune sur les mêmes bancs entraîne ensuite un entre-soi où l'avocat n'a pas sa place. Il y a 2 ans, Maître Dupond-Moretti proposait dans un livre de supprimer carrément l'École nationale de la magistrature, incapable de former correctement les futurs magistrats, des jeunes gens qu'elle encaste dans un moule dont ils ne sortiront jamais, disait-il. Aujourd'hui, garde des Sceaux, il n'a pas l'intention de supprimer l'ENM, mais de la réformer en profondeur, dans un contexte déjà très tendu avec les magistrats, depuis qu'il a annoncé vendredi une enquête administrative sur le parquet national financier pour des soupçons de manquement à la loyauté dans l'affaire des Fadettes, où il avait lui-même porté plainte avant d'être ministre. Indignation unanime des syndicats de magistrats jusqu'au Conseil supérieur de la magistrature qui, c'est très rare, a publié un communiqué.
Guillaume Bied du service police-justice d'Europe 1.
Une nouvelle semaine s'ouvre au procès des attentats de janvier 2015. À partir d'aujourd'hui, la cour d'assises spéciale de Paris se concentre sur la prise d'otages de l'hypercacher.
18 personnes retenues par le complice des frères Kouachi, Amédi Coulibaly, 4 d'entre elles ne ressortiront pas du magasin. Parmi les otages, Zari Siboni, 22 ans à l'époque, caissière à l'hypercacher. Elle sera l'un des témoins clés de cette attaque. Elle doit être entendue demain. Son avocat, Maître Elie Corchia, explique l'importance d'une telle prise de parole.
Le témoignage de Zari est particulièrement attendu parce qu'elle a vécu ces 4 heures, 4 minutes d'horreur dans l'hypercacher face aux terroristes. Et de par ce qu'elle a vécu, de par le fait qu'elle était aussi l'interlocutrice directe, en tout cas, du terroriste pendant cette prise d'otage, effectivement, son témoignage est important. Mais elle voulait vraiment venir témoigner et parler à la cour d'assises pour dire d'abord ce qu'elle a vécu ce jour-là, l'horreur d'être confronté à un tel terroriste, un tel criminel, et puis en même temps parler de son collègue qui est mort devant ses yeux et des autres personnes qui, contrairement à elle, n'ont pas eu la chance de sortir vivant de l'hypercacher ce jour-là.
Maître Elie Corchia, l'avocat de Zari Siboni, au micro de Chloé Triomphe. Le témoignage de Zari Siboni que vous entendrez dans le journal de 8h de François Geffrier et dès maintenant sur notre site europe1.fr.
7h33, l'épidémie de coronavirus en France et encore plus de 10 500 cas enregistrés au cours des dernières 24 heures. Dès demain, les règles sanitaires vont être allégées dans les écoles maternelles et primaires. Lorsqu'un enfant sera testé positif, sa classe pourra continuer à se tenir normalement.
Les mesures commencent à s'assouplir dans les écoles, certes, mais ailleurs, les autorités resserrent la vis pour faire respecter les consignes. À Rennes, par exemple, où les bars doivent désormais fermer leurs portes à 23h, des brigades ont été mises en place pour limiter les rassemblements. Une mission quelque peu délicate dans cette ville qui accueille plusieurs dizaines de milliers d'étudiants. Charles Guyard.
Bonsoir. Ils font partie du paysage des nuits rennaises depuis une douzaine d'années. Les médiateurs de Nosambules, comme Hugo et Stéphane, mènent des actions de prévention autour de l'alcool ou de l'insécurité. Mais depuis mercredi, une autre mission s'est ajoutée.
Vous sortez de bar là ?
Ouais, on a pris une bière.
Il s'agit d'aller vers les clients des bars qui se retrouvent dans la rue à 23h et pourquoi pas tenter de les convaincre de rentrer chez eux sans se regrouper puisque c'est le but recherché. Pas facile dans cette ville très étudiante puisque cet horaire sonne plutôt le début de la soirée.
23h, c'est un peu spécial. Je trouve que c'est un peu abusé.
On va aller se poser dans un petit parc tranquille, on va boire un petit coup.
Je pense que la proximité qu'on a à 23h est la même que celle qu'on aurait à 1h du matin.
De fait, si les bars se vident bien à 23h, les rues, les parcs, mais surtout les appartements, eux, se remplissent, comme le constate dans ces échanges Alice, une autre médiatrice.
Et bah là, ils penseront pas forcément à mettre leur masque ou à bien se laver les mains. Pour eux, c'est pas cohérent, ça peut même être pire, peut-être.
Une fois rentrées, les équipes de Nosambules rédigent une synthèse de leur discussion que la mairie pourra utiliser pour ajuster sa politique, notamment sanitaire.
Merci, bonne soirée, prenez soin de vous.
Rennes Charles Guyard, Europe 1.
En Espagne, près d'un million d'habitants se reconfinent dans la région de Madrid à partir d'aujourd'hui. Ils ne pourront sortir de leur quartier, que pour des raisons de première nécessité. Aux États-Unis, le bilan approche les 200 000 morts du coronavirus.
Les États-Unis où la bataille continue entre Joe Biden et Donald Trump, le démocrate accuse son opposant d'exercer le pouvoir de manière brutale en essayant de nommer un nouveau juge à la Cour suprême avant l'élection présidentielle. Un abus de pouvoir, juge Joe Biden, qui risque, selon lui, de plonger le pays dans une crise constitutionnelle.
En France, la France insoumise s'apprête à lancer son nouveau think tank ce soir, l'Institut La Boétie. Et la date choisie ne doit rien au hasard. Le leader du mouvement, Jean-Luc Mélenchon, en profitera pour prononcer un discours à l'occasion du 228e anniversaire de la République. L'insoumis dira en octobre s'il est candidat pour 2022, mais il veut déjà se montrer crédible. Claudia Bartram.
Que Jean-Luc Mélenchon se prépare intellectuellement à être candidat est une évidence, admet l'un de ses proches. À la France Insoumise, on jure que le lancement de l'Institut La Boétie n'a rien à voir avec la présidentielle. Même si un député le reconnaît, il prépare ses outils pour une éventuelle campagne et cet institut en fera partie. Et la date n'a pas été choisie au hasard. Jean-Luc Mélenchon tiendra un discours sur la République. L'occasion de répondre à celui d'Emmanuel Macron au début du mois et de lui opposer sa vision. L'occasion aussi, espère un insoumis, de parler laïcité, République ce soir, sécurité la semaine dernière. Une force qui aspire à gouverner le pays doit être capable de faire entendre sa voix sur des sujets qui sont dans le débat public, explique un député. Quitte à opérer un changement de pied, on est sous le feu de critiques caricaturales, déplore un cadre de la France insoumise. Pour un mouvement et son leader fragilisé après la débâcle des européennes et l'impasse faite aux municipales, la stratégie est de se faire entendre sur les sujets régaliens et d'attirer l'électorat populaire et abstentionniste en vue de 2022.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1.
La journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer, aujourd'hui, plus d'un million de Français en souffrent. 225 000 nouveaux patients diagnostiqués chaque année et ce nombre risque d'augmenter en cause le vieillissement de la population. Et pourtant, il n'existe toujours pas de traitement efficace.
Et cela rend la tâche des aidants particulièrement difficile. Ce sont souvent les proches qui prennent soin du malade. Et c'est une mission à temps plein, vous allez l'entendre. Cela fait un an que Corinne a lâché son emploi pour accompagner son mari de 69 ans.
Toutes les maladies d'Alzheimer n'évoluent pas tout à fait de la même façon non plus. Ça, il faut le savoir. Et ça a commencé à 67. Puis ça peut toucher des gens jeunes. Et encore des gens plus jeunes que mon époux qui développent cette maladie. Mon époux, c'est plus lui ma priorité que moi. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que lui aille mieux? C'est gérer tous les rendez-vous médicaux, rassurer et être sur tous les fronts. On a eu quand même des grands, grands moments de solitude, pour mon mari comme pour moi. On estimait que ce n'était pas un tabou et on en a parlé autour de nous. Et puis, on s'est rendu compte quand même que certaines personnes donnaient plus trop signe de vie. C'est douloureux pour eux parce qu'ils se rendent compte aussi quand même que leur capacité leur échappe. Même si on a cette maladie, même si on sait qu'elle est évolutive, qu'elle ne se guérit pas. Mon autre espoir, c'est surtout que les médecins et que la recherche trouvent vraiment quelque chose qui stoppe, qui répare.
Quelque chose qui stoppe et qui répare l'espoir de Corinne aidante. Depuis un an, elle répondait à Laura Tauchanoff.
Merci beaucoup et ne manquez pas notre santé. Avec le docteur Jimmy Mohamed ce matin, 40% des cas d'Alzheimer seraient évitables. C'est dans une heure. Sophie Echen, c'était le journal de 7h30. Merci beaucoup.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Ce matin sur Europe 1, nos invités vous éclairent sur des débats de société. À 8h15, tout à l'heure, l'invité d'Europe Matin, c'est le PDG d'Orange. Veut-on de la 5G et dans quelles conditions? La mise en place du télétravail aussi, discuté cette semaine par syndicats et patronats. Stéphane Richard, patron d'Orange, au micro de Sonia Mabrouk tout à l'heure. Mais tout de suite, d'autres débats de société pour l'invité du tête-à-tête Europe Matin. Relance verte, lutte contre les pesticides, mais aussi les questions des accords de libre-échange à l'international. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA et désormais du COPA, le principal syndicat agricole européen. Le tête-à-tête Europe Matin dans quelques toutes petites secondes. Bon réveil.
Europe Matin, le 7-9.
Europe 1, il est 7h41. Conseil européen des ministres de l'agriculture et de la pêche à Bruxelles aujourd'hui. Mon invitée, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Et depuis vendredi, elle est également élue à la tête du principal syndicat agricole européen, le COPA, le Comité des organisations professionnelles agricoles.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Christiane Lambert.
Bonjour Mathieu Béliard et bonne fête.
Merci, merci beaucoup, merci d'y avoir pensé. Alors ce Conseil européen, c'est peut-être moins réjouissant comme ça, mais on va entrer en profondeur dans le sujet. Conseil européen des ministres de l'agriculture, de nombreux dossiers sur la table qui vous concernent directement, à commencer par la nouvelle PAC. Il faut qu'elle soit verte, la politique agricole commune, c'est l'ambition des États membres. Et vous parlez d'une période d'incertitude pour les agriculteurs, l'arrivée de nouvelles normes, de nouvelles contraintes aussi. Ça semble vous inquiéter.
Ce qui inquiète les agriculteurs, c'est surtout le niveau des exigences fixées sans aucune étude d'impact. Nous comprenons la direction d'une PAC plus respectueuse de l'environnement. D'ailleurs, depuis une quinzaine d'années, il y a déjà la conditionnalité, le verdissement, c'est-à-dire des mesures obligatoires pour tous les agriculteurs. Là, la volonté d'aller plus loin. Mais ce qui nous inquiète, c'est de dire, par exemple, il faut 25% de produits bio d'ici 5 ans. Est-ce que le marché l'absorbera? Point d'interrogation. Il faut réduire de 50% les produits phyto. Est-ce qu'il y aura des solutions économiquement tenables? Ou alors, est-ce que les consommateurs accepteront de payer un peu plus cher?
Il faut fixer des objectifs, Christiane Lambert.
Bien sûr, mais les objectifs, il vaut mieux les fixer avec les experts que juste au doigt mouillé et en quelque sorte énoncé de façon qui paraît un peu dogmatique. Donc nous avons déjà engagé des évolutions. Par exemple, nous avons réduit les émissions de gaz à effet de serre de 8% en 20 ans. Nous produisons 30% de plus de blé avec 20% d'azote en moins. Donc il y a déjà des progrès. Tous les pays ne sont pas au même niveau non plus.
Vous preniez l'exemple des produits phytosanitaires, Christiane Lambert, et c'est vrai qu'on a eu Ecophyto 1, Ecophyto 2, on nous a promis 50% de réduction et ça continue d'augmenter.
Oui, mais qui vous a promis ? Qui vous a promis à l'époque du Grenelle de l'environnement ? Des gens qui ont dit comme ça, en claquant des doigts, il faut baisser de 50%,
débrouillez-vous. Ce sont des élus, en fait.
Des élus politiques, bien sûr, le président Sarkozy et le Grenelle de l'environnement. Mais quand aucun moyen n'a été mis sur la recherche pour trouver des solutions, c'était juste une incantation, c'était évident que ça ne marcherait pas. Donc je pense que les politiques doivent aussi être raisonnables. C'est la meilleure manière de décourager et les agriculteurs et les citoyens, de lancer des chiffres comme ça. Donc quand on est sur le terrain, on ne prévoit pas ni la pluie, ni le beau temps, ni les attaques de pucerons, si vous voyez ce que je veux dire.
Je vois très bien, je voudrais qu'on soit clair pour nos auditeurs, vous faites référence aux néonicotinoïdes, ces fameux pesticides tueurs d'abeilles qui ont été complètement interdits, puis maintenant autorisés avec des dérogations, ça a fait moult débats et c'est le fond du sujet, hein, ces produits phytosanitaires. Il y a aussi la question du bien-être animal, Christiane Lambert, ça semble être une priorité pour la présidence allemande de l'Union européenne et vous émettez des réserves.
Le bien-être animal fait partie intégrante du métier d'éleveur. Je suis éleveur de porc depuis 30 ans. C'est évident qu'on ne travaille pas aujourd'hui comme on travaillait il y a 30 ans. Ce qui nous ennuie par contre, c'est quand on voit la rapidité avec laquelle les choses se mettent en place, il faut 20 ans pour amortir un bâtiment d'élevage. Donc les décisions au claquement de doigts tous les 3 ans, c'est compliqué à suivre pour les agriculteurs. Et puis les acheteurs ne sont pas toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, quand on essaye d'étiqueter le bien-être animal ou de faire savoir, il n'y a pas toujours les consommateurs au rendez-vous. Je vous donne un exemple. Les œufs de poules libres, c'est-à-dire les poules qui ne sont pas en cage, plus 47% d'achat, c'est vrai, mais moins 6% sur le prix. Donc l'équation volume-prix, elle est toujours présente dans nos raisonnements. Donc le bien-être animal, oui bien sûr, et nous avançons, mais tout dirigé par des injonctions ne colle pas toujours aux réalités de marché, voilà, ou de comportement des consommateurs.
Quelques-uns des chantiers qui vous attendent. Christiane Lambert, vendredi, vous avez donc été élue à la tête du COPA, la principale organisation agricole européenne. Mais vous restez présidente de la FNSEA, je le souligne pour nos auditeurs, c'est tout à fait normal. Est-ce que ces positions restent, cela dit, compatibles ? Le COPA est régulièrement situé du côté des accords de libre-échange, alors que la FNSEA est aujourd'hui plus protectionniste.
Ça bouge. Vous avez vu aussi Mme Merkel le 21 août.
Qui bouge, pardon, la FNSEA ou le COPA ?
Le COPA. C'est-à-dire que de plus en plus de pays se rendent compte que le multilatéralisme ou même le bilatéralisme poussé à l'extrême amène les agriculteurs dans des situations intenables. Voyez bien, nous avons, nous, en Europe, un niveau d'exigence très élevé sur le bien-être, sur les antibiotiques, sur les phytos. Nous progressons énormément. D'autres pays refusent d'intégrer les notions de bien-être dans les accords commerciaux. Le Brésil l'a dit fortement récemment. On ne peut donc pas accepter que des produits rentrent sur notre territoire s'ils ne respectent pas du tout les mêmes règles. D'autres pays, il restait 3 pays irréductibles. Aujourd'hui, ça évolue de façon importante. Vous avez vu les déclarations de Mme Merkel le 21 août sur le Mercosur et les ministres, il y a un mois, qui ont dit en l'état, on ne peut pas signer le Mercosur. Donc les choses avancent.
Vous vous réjouissez que la France ait maintenu son opposition à ce traité de libre-échange avec des pays d'Amérique latine ?
En tout cas, le rapport qui est sorti vendredi dernier montre bien que la compétitivité de l'Amérique du Sud se fait au détriment de l'Amazonie, se fait au détriment des normes sanitaires et de bien-être. Les scandales se multiplient dans ces pays qui produisent pas cher. Et nous perdons nos productions parce que nous avons des normes trop strictes. C'est le consommateur qui est floué à la fin. Parce que tous les produits d'importation qui sont moins chers, qui sont achetés par ceux qui ont le moins de pouvoir d'achat, déçoivent les consommateurs et nous mettent, nous, en difficulté, voire en faillite. C'est une question de cohérence politique, d'abord.
Christiane Lambert, vous parlez d'importation depuis quelques minutes. Si on parle finance, on va parler d'exportation aussi. Et ça, c'est un des effets de la crise que nous traversons. L'euro, la monnaie, est au plus fort depuis 2 ans. Résultat, nos produits sont plus durs à exporter. Les vins, les produits laitiers, les céréales. Vous dites que l'Europe doit refaire de la souveraineté alimentaire un objectif stratégique. Est-ce que ça veut dire qu'on va arrêter d'être des exportateurs nets comme nous le sommes aujourd'hui ?
Non, nous sommes pour une souveraineté alimentaire ouverte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut commercer. Il y a des produits que nous ne produirons jamais. Le thé, le café, les fruits exotiques. Le produit le plus consommé à Rungis, c'est l'ananas. On ne produira jamais d'ananas en métropole. Donc oui, au commerce, mais avec des règles équitables. Et par contre, prenons un exemple très concret. La semaine dernière, le ministre de l'Agriculture s'est fait dire par le président de la région Bretagne Il y a 10 ans, nous avions 6 millions de poulets. Aujourd'hui, nous en avons 3 millions. Nous en mangeons 6 millions, mais ceux que nous importons viennent d'Ukraine. Pensez-vous qu'ils soient faits dans les mêmes conditions, ces poulets d'Ukraine? Or, ils se retrouvent dans les cantines de nos enfants, de nos militaires, de nos malades. Ça, c'est une incohérence. Donc la souveraineté qu'a voulu le président de la République et que nous soutenons fortement, c'est produire le maximum de produits chez nous avec des règles qui correspondent aux besoins de la société d'aujourd'hui. Mais ça a un prix, c'est-à-dire que toujours chercher le low cost conduit à d'abord des licenciements. On parle aujourd'hui de relocalisation, de réindustrialisation. Pour l'agriculture aussi, il faut le penser de cette façon. Et puis c'est pareil pour les protéines. Vous voyez les protéines animales que nous faisons venir d'Amérique du Sud. Eh bien, il y a un grand plan et il est discuté aujourd'hui au Conseil des ministres européens pour faire plus de protéines végétales en France pour l'alimentation humaine et animale.
Et ne plus importer autant de soja d'Amérique latine notamment. Christiane Lambert, merci beaucoup, présidente de la FNSEA. Et du COPA, le principal syndicat agricole européen, élu première femme à la tête du COPA, élu vendredi. Christiane Lambert, merci beaucoup, 7h49. Vous restez sur Europe 1 à suivre l'édito de Nicolas Bétou, l'édito politique. À droite, est-ce qu'on connaît un moment Xavier Bertrand? À tout de suite.
Le 7-9, Mathieu Béliard.
7h52, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Xavier Bertrand était hier l'invité du Grand Rendez-vous sur Europe 1. Il avait déjà, dans la matinée, donné une interview aux Parisiens.
Voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler le moment Bertrand. Depuis des mois, il s'emploie à installer l'évidence de sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Il reçoit beaucoup, il visite beaucoup, il soigne ses relations avec les différents cercles de la droite et du centre. Et on voit que ça commence à rendre, puisque ça suscite des ralliements. Autre signe de son activisme en vue de la présidentielle, il va étendre son think tank avec l'objectif que ça lui serve de boîte à idées pour son programme futur. Enfin, dernier élément de la stratégie, les médias. Et vous venez de le noter, Mathieu, Xavier Bertrand se multiplie.
Est-ce que ça peut suffire pour être candidat?
Évidemment non. En plus de se préparer sans relâche, il faut remplir une autre condition, sine qua non, en avoir envie. C'est bien ce qui semble manquer à un autre candidat potentiel de la droite, celui vers lequel tous les regards des Républicains se tournaient jusque-là, mais qui ne donnent pas l'impression, mais alors pas du tout, d'en avoir envie.
Oui, vous parlez de François Baroin.
Eh bien oui, et comme la politique, comme la nature, ça a horreur du vide, plus l'hypothèse de sa candidature s'estompe, plus celle de Xavier Bertrand grignote du terrain, et plus il dit qu'il en a envie, justement. Alors bien sûr, il a encore devant lui des obstacles redoutables, à commencer par sa réélection à la tête de la région des Hauts-de-France. S'il perd, on voit mal comment il pourrait briguer l'Élysée. Il le sait d'ailleurs. Il explique que les régionales, c'est sa primaire à lui. Bon, imaginons qu'il l'emporte. Il se lance et le plus dur commence. Car Xavier Bertrand n'a aujourd'hui aucun parti derrière lui. Il a démissionné des Républicains, c'était Alaire Vauquier, et ça a laissé des traces. La droite est divisée et pour l'instant, aucun candidat potentiel ne rassemble toutes les tendances.
Et Xavier Bertrand, il occupe quel créneau, si j'ose dire?
Alors, il le dit lui-même, je suis le représentant d'une droite sociale populaire. Voilà, c'est à la fois son atout et son problème. Son atout parce que ça l'oppose franchement à Emmanuel Macron. D'ailleurs, il l'attaque de plus en plus durement. Il cherche le combat politique. Il veut cantonner le président dans un rôle de dirigeant qui ne connaît pas le peuple. Et c'est une critique qu'il porte, bien sûr. Mais être le porte-voix d'une droite sociale et populaire, c'est loin de suffire pour rallier toutes les droites, et c'est son problème. François Fillon avait choisi le créneau inverse, lui, hein, une droite libérale, réformatrice, pas spécialement populaire. Et on se souvient qu'avant même ses ennuis, il avait eu du mal à rassembler une fois la primaire gagnée. Eh bien, c'est la même chose qui attend Xavier Bertrand. La droite est malade de ne pas savoir ce qu'elle veut, malade d'avoir plus de sensibilités différentes que de candidats capables de l'emporter.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins sur Europe 1 juste avant 8h. Et c'est l'heure de retrouver Nicolas Canteloup qui tous les jours coach, conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk interviewera Stéphane Richard, le PDG d'Orange.
Oui, tout à fait, mon cher Mathieu, Stéphane Richard qui viendra, le PDG d'Orange qui viendra pour la 5G. Pour en parler, pas pour l'installer, bien entendu, il ne va pas débouler en salopette bleue, rassurez-vous. Voilà, je vais faire donc un peu... Pardonnez-moi pour la voix, je vais faire un petit peu semblant d'être contre sur le principe, mais je suis plutôt pour la 5G, à condition qu'ils ne nous en mettent pas partout dans le 16e.
Pardon Sonia, je crois qu'on est en ligne avec Bruno Le Maire.
Oui, bonjour, c'est Nono, votre ministre de l'économie. Écoutez, j'ai entendu la présidente de la FNSEA parler de Bovidé. Eh bien moi, je le dis, oui, je suis Covidé. Je suis positif, contrairement aux finances de la France qui sont dans le négatif. Hein. Dites à Stéphane qu'il peut aller sur la 5G, pas de souci, on va pas se laisser emmerder par trois punks à chiens. Hein. Merde, pardon, c'est l'effet Covid, j'ai oublié la langue de bois.
C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale tous les jours à 7h55. Sonia Mabrouk à 8h15 recevra Stéphane Richard, le PDG d'Orange. Merci Nicolas, à tout à l'heure, 8h45 pour la revue de presque. Bon réveil à tous. 7h59 sur Europe 1, Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Et en ce moment, il fait entre 15 et 18 degrés, c'est la moyenne nationale des températures. Dans la journée, 22 à Saintes et Bordeaux, comme à Bayonne, 23 à Cognac et Vannes, 24 à Toulouse, à Nantes, à Clermont-Ferrand et Limoges, à Rennes, Lille, Épinal, Marseille, Lyon, Bourges, entre 25 et 26, 27 à Nancy et Colmar, et c'est à Paris qu'il fera le plus chaud, 28 degrés au meilleur de la journée. Et en ce qui concerne la couleur du ciel, et bien sur toute la moitié sud, hein, jusqu'au Poitou-Charentes, jusqu'au tout le massif central, la vallée du Rhône, la côte d'Azur, le sud-ouest, nous aurons un temps souvent agité avec parfois des orages. Oh, les orages ne seront pas très nombreux, mais ils seront présents surtout ce soir et cet après-midi. Sur la Bretagne, les Pays de la Loire, la Franche-Comté, la région lyonnaise, là c'est une zone tampon en quelque sorte, avec des nuages et quelques averses. Et puis il fera beau sur les côtes de la Manche, sur la Lorraine, l'Alsace, la région parisienne et la Bourgogne, ainsi que sur le delta du Rhône et Languedoc-Roussillon. N'oubliez pas que demain, nous passons à l'heure du printemps, de l'automne, et qu'à partir d'après-demain, eh bien, les températures vont vraiment baisser.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changer. Il est 8h.
Il y a à peu près une centaine de molécules dans le monde qui sont en cours d'essai, en espérant qu'ils pourront avoir un effet à un stade où la récupération est possible.
Stopper Alzheimer avant que ces dommages soient irréversibles. La maladie commence bien plus tôt qu'on ne le pensait. L'état de la recherche scientifique sur ce mal qui touche 1 200 000 Français. Que peuvent deux ministres et toute la bonne volonté du monde face à la décision d'un groupe étranger de mettre 863 salariés au chômage ? C'est ce que l'on verra cet après-midi à Béthune, où nous allons dans 2 minutes. En direct aussi des États-Unis où se joue une bataille dans la bataille. La nomination à vie d'une juge à la Cour suprême. À 6 semaines de la présidentielle, Donald Trump peut donner pour longtemps une couleur conservatrice à cette institution capitale. Témoignage exceptionnel dans ce journal, les 4 heures et 4 minutes d'angoisse racontées par Zari Siboni, caissière de l'Hypercacher en janvier 2015, qui s'apprête à témoigner au procès. Et puis, des cours de vélo à l'école, qu'ils se rêvent ou non en futur maillot jaune du Tour de France, les enfants apprennent déjà comment freiner, c'est le plus important.
Les débats sur le déploiement de la 5G, mais aussi l'enjeu du télétravail discuté par les partenaires sociaux. Cette semaine, à 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Stéphane Richard, le PDG d'Orange. Soyez les bienvenus sur Europe 1, il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Parfois qualifié de mal du siècle, Alzheimer, dont c'est la journée mondiale aujourd'hui. Un Français sur deux a dans son entourage une personne touchée et un nouveau diagnostic est fait toutes les 2 minutes 30. La recherche contre la maladie a semblé connaître des échecs, comme en 2018 avec l'arrêt du remboursement des médicaments jugés inefficaces.
Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour à tous.
Il y a pourtant des progrès sur ce que l'on sait de la maladie d'Alzheimer.
Exactement, l'une des grandes découvertes de ces 15 dernières années, c'est que la maladie d'Alzheimer débute silencieusement 10 ou 20 ans avant l'apparition des symptômes. La nouvelle stratégie des chercheurs, explique le professeur Philippe Amouyel, directeur général de la Fondation Alzheimer, c'est donc d'apprendre à repérer les futurs malades en amont, par de la génétique ou de l'imagerie cérébrale, et à mettre au point des traitements qu'on leur donnera plus tôt.
Il y a à peu près une centaine de molécules dans le monde qui sont en cours d'essai, avec différentes cibles, pour lesquelles on attend des résultats, mais qui, au lieu d'être utilisées au moment où les gens ont les symptômes, sont utilisées avant les symptômes, en espérant qu'ils pourront avoir un effet et stopper la maladie à un stade où la récupération est possible.
Alors si on comprend bien Anne, on n'arrive pas à traiter les symptômes, on cherche donc à détecter beaucoup plus tôt la maladie.
C'est exactement l'idée. Les traitements à l'essai visent donc à empêcher les symptômes, certains en protégeant les neurones pour limiter les troubles de la mémoire, d'autres en bloquant la protéine amyloïde qui perturbe le cerveau des malades. Et même si aucun nouveau médicament pour traiter Alzheimer n'a été mis sur le marché depuis plus de 15 ans, cette fois, le professeur Amouyel, comme d'autres experts, sont plus optimistes. Ils espèrent des résultats d'essais cliniques significatifs dès l'année prochaine.
Anne Le Gall, et j'ajoute qu'un Français sur trois pense être probablement probablement concerné par cette maladie quand il aura 80 ans. Chiffre du baromètre de la Fondation Médéric Alzheimer qui vient de paraître. 10 600 cas de contamination au coronavirus recensés en France hier après un record à plus de 13 000 vendredi. Le taux de positivité des tests augmente à nouveau. Il est de 5,7%.
À Béthune, passé le choc de l'annonce par Bridgestone de sa volonté de fermer son site de fabrication de pneus, l'heure est à la mobilisation.
Deux ministres feront le déplacement cet après-midi, Elisabeth Borne et Agnès Pannier-Runacher, en charge respectivement du travail et de l'industrie. Elles vont réunir les élus locaux, les syndicats, les représentants du groupe japonais. Lionel Gougeot, vous êtes en direct de l'usine à Béthune. Vous avez pu discuter avec des salariés ce matin à l'embauche. Est-ce qu'ils croient à l'efficacité de cette mobilisation gouvernementale ?
Bon bah écoutez, François, ce que l'on perçoit ici en discutant effectivement avec les salariés aux portes de l'usine, c'est que cette espèce d'union sacrée hein, autour de Bridgestone est plutôt réconfortante. Deux ministres du gouvernement pour tenter de faire revenir le géant japonais sur sa décision, c'est bien. Le problème, c'est que depuis plusieurs années déjà, les politiques, que ce soit au niveau national ou au niveau local, interpellent Bridgestone sur la nécessité de moderniser, d'investir sur le site. Et le constat, c'est qu'il n'y a eu aucun résultat, d'où un certain fatalisme chez les salariés.
Le gouvernement aussi. Oui, on espère que ça restera ouvert, mais s'ils ont décidé de fermer, ils vont fermer, donc j'ai peu d'espoir.
Ils vont essayer de négocier pour qu'il y ait une reprise d'activité et des investissements, mais on n'y croit pas trop. On attend de la réunion, mais bon après, on n'espère pas non plus grand-chose, mais si l'usine réelle ferme réellement, qu'ils nous offrent les moyens de rebondir après que si ça ferme réellement, quoi.
Alors vous l'entendez, un scepticisme de ces salariés sur la capacité réelle des pouvoirs publics à faire plier le manufacturier. Pourtant, les élus et le gouvernement ont rappelé ce week-end qu'il y a eu un précédent. En 2013, l'usine Bridgestone de Bari en Italie, sauvée grâce à des investissements et le soutien massif de l'argent public. Alors l'intérêt de la réunion d'aujourd'hui, me disait tout à l'heure un salarié, c'est qu'on saura si nos dirigeants sont enfin prêts à négocier.
Lionel Gougelot, en direct de Béthune pour Europe 1. Deux personnes toujours portées disparues dans le Gard après les intempéries de samedi soir. Les cours d'eau ont connu des crues rapides allant jusqu'à une montée de 6 mètres en 2 heures. C'est à coup sûr un tournant dans la campagne présidentielle américaine. La mort vendredi de l'une des 9 juges de la Cour suprême des États-Unis, Ruth Bader Ginsburg, poste crucial, qui a donc vocation à être remplacé. Joe Biden, le démocrate qui brigue la Maison-Blanche, a beau implorer les sénateurs républicains de suivre leur conscience et de ne pas voter. Son concurrent, le sortant Donald Trump, a bien l'intention de nommer au plus vite une nouvelle juge avant le scrutin présidentiel du 3 novembre.
Bonjour Xavier Yvon.
Bonjour.
Vous êtes en direct de New York pour Europe 1. Pourquoi, Xavier, parle-t-on d'un séisme politique chez vous avec ce siège vacant ?
Ben, il faut comprendre que la mort de cette petite femme frêle et voûtée peut changer l'Amérique pour les décennies à venir. S'il arrive à remplacer la juge Ginsburg, Donald Trump aura réussi à faire basculer durablement la Cour suprême à droite avec 6 juges conservateurs contre 3 progressistes, sachant que ces magistrats sont nommés à vie. Et aux États-Unis, c'est la Cour suprême qui régit une grande partie de la vie quotidienne des Américains, comme Roa, une mère de famille de New York. Elle n'est pas seulement triste de perdre une icône féministe, elle est aussi effrayée pour la suite.
C'est un désastre. On a tous peur. On a peur que la vie qu'on a maintenant va changer. Surtout pour les femmes, pour le droit, pour avoir un choix, pour avorter, pour le travail. C'est vachement triste.
Droits des femmes, des minorités, des homosexuels, la santé, la protection des travailleurs, tout ça pourrait être remis en cause par une cour à majorité conservatrice.
Alors pour en revenir à l'élection présidentielle, Xavier, qui est dans 6 semaines, cet événement a déjà un impact sur la campagne ?
Ah oui, un premier effet sonnant et trébuchant. Les démocrates ont reçu près de 100 millions de dollars de dons pour la campagne électorale depuis la mort de RBG, qu'on l'appelle ici. C'est énorme et ça montre à quel point cet événement est en train de galvaniser la gauche américaine. La peur de voir les États-Unis reculer sur ces questions sociales peut réveiller les jeunes et les plus à gauche qui, jusque-là, n'avaient pas une folle envie d'aller aux urnes pour Joe Biden. C'est d'ailleurs ce qu'espère le maire démocrate de Brooklyn que j'ai interrogé hier.
If voters are not motivated now.
Si les électeurs ne sont pas motivés après ça, je ne sais pas ce qu'il leur faut, m'a dit Eric Adams. On a d'ailleurs vu ce week-end des longues files d'attente aux urnes en Virginie, un état où on peut déjà voter par anticipation. Mais dans l'autre camp, si Donald Trump parvient à ses fins, il aura la reconnaissance éternelle de l'Amérique conservatrice, notamment les chrétiens évangéliques anti-avortement, un électorat clé pour lui alors que leur soutien s'est frité ces derniers mois. Et puis dernière conséquence, il y a de fortes chances que le résultat de l'élection soit serré et contesté. Le camp Trump crie déjà à la fraude, sans preuve. Le camp Biden a déjà prévu une armée d'avocats. Or, qui a le dernier mot pour valider un scrutin aux États-Unis ? La Cour suprême.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 en direct ce matin des États-Unis. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Après Charlie, après Montrouge, c'est la prise d'otage de l'hypercacher que va examiner la cour d'assises spéciale. Témoignage exceptionnel dans deux minutes.
Et puis les enfants et le vélo. Est-ce que la main gauche freine la roue avant ou arrière? Si vous avez un doute, restez avec nous.
A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Déjà la quatrième semaine qui commence pour le procès des attentats de janvier 2015. La cour d'assises spéciale de Paris va se pencher à présent sur l'attaque et la prise d'otage de l'hypercacher de la porte de Vincennes le 9 janvier.
Et le récit que vous allez entendre sur Europe 1, c'est celui de Zary Siboni, caissière du magasin, âgée alors de 22 ans. Elle raconte, avec une grande précision, les longues heures de la prise d'otage.
J'étais une des seules à connaître en fait le magasin et j'ai remarqué dès le début qu'il m'avait choisi pour faire ce qu'il voulait que je fasse. Il m'a dit, t'as 10 secondes pour aller chercher les gens qui se sont réfugiés en bas. Ça s'est passé en petits groupes, au fur et à mesure les gens sont montés jusqu'à ce que Yoav monte. Il voit que le terroriste a laissé une de ses armes sur le côté. Il n'a même pas eu le temps en fait de la positionner et de tirer que le terroriste lui avait déjà tiré de son autre arme 2 balles dans la tête. Il y avait énormément de sang. Et il a dit, je vous conseille de rien tenter d'autre. Et en fait, je savais qu'il fallait absolument rien tenter. C'était 4 heures et 4 minutes de stress, de peur. Pour moi, j'étais sûre de mourir ce jour-là. Je me demandais juste c'était quand. Et d'ailleurs, je priais juste pour que ce soit une balle dans la tête et pas autre chose. Et que je ne sois pas blessée en train de souffrir longtemps. En fait, ce jour-là, il en avait après nous. Il a voulu nous tuer parce qu'on était juifs et français. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de réponse en fait à cette question qui est pourquoi ? J'avais jamais vraiment pensé à la mort à 22 ans. Donc quand c'est arrivé, j'avoue que ça a été un choc énorme. Depuis, je vais beaucoup mieux parce que je me suis toujours dit que ce jour-là, j'ai eu la chance de survivre. C'est un cadeau. Je ressens que j'ai reçu la vie une deuxième fois en cadeau et que je dois faire tout ce qu'il faut pour vivre pleinement chaque jour et valoir ce cadeau de la vie que j'ai reçu le 9 janvier 2015. Ce qui s'est passé ce jour-là, ça fait partie de ma vie. C'est pas quelque chose qu'on peut oublier.
Témoignage recueilli pour Europe 1 par Chloé Triomphe et à retrouver en intégralité sur europe1.fr. L'arrivée hier du Tour de France sur les Champs-Élysées, c'est Tadej Pogacar qui s'impose comme maillot jaune. Le premier Français, Guillaume Martin, est 11e. Encore assez loin des champions. Nos écoliers apprennent à manier un vélo, une sorte de permis de conduire lancé progressivement, comme dans cette école parisienne où s'est rendue Virginie Salmen.
Regardez la roue avant, elle freine. Ça veut dire que ma main gauche, c'est la roue. C'est la roue.
Et voilà, les règles de base doivent rentrer dans les têtes. Les élèves apprennent à piloter le vélo dans la cour de l'école. Un peu de code de la route et la sécurité. Par exemple, pourquoi faut-il freiner des 2 freins et pas d'un seul?
Si on freine la roue avant, on peut tomber. Si on freine la roue arrière, eh ben on va déraper.
Toi, t'as fait quoi là?
J'ai pas bien freiné, donc je me suis un peu fait mal au pied.
Pour l'instant, ces élèves sont des chanceux. Ils font partie des rares enfants de primaire à avoir eu des ateliers vélo.
L'idée, c'est quand ils ont terminé cette formation en CM2, ils soient autonomes afin de prendre leur vélo pour aller au collège en 6e.
Théo Bartuccio est un cycliste militant et le principal artisan du plan vélo à l'école. Et voilà son idée fixe.
Travailler sur une future génération. Pourquoi ? Parce que ces enfants, à un moment donné, ça va être des automobilistes ou des cyclistes. Et ils vont avoir ces réflexes qu'on va leur apprendre et ça va leur rester.
Pour l'instant, quelques centaines d'élèves seulement ont suivi ces ateliers. Le plan démarre. Il faudrait un levier important pour former des moniteurs et pourquoi pas des agents communaux et arriver jusqu'à l'objectif de 800 000 enfants par an à partir de 2022.
Un reportage signé Virginie Salmen.
Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
8h13, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La 5G mérite qu'on s'y attarde, sans raccourci ni caricature. C'est un vrai débat de modèle de société et on va en parler avec un connaisseur, Stéphane Richard, le patron d'Orange, l'un des leaders mondiaux dans les télécommunications.
A tout de suite sur Europe 1. 8h17 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk, l'invité d'Europe Matin, c'est Stéphane Richard, le PDG d'Orange.
Bienvenue à vous et bonjour Stéphane Richard.
Bonjour Sonia.
Est-ce que ceux qui expriment des inquiétudes, voire même une opposition sur la 5G sont forcément des chantres de la décroissance ?
Peut-être pas. Il y a des peurs et des questions qui se posent. C'est une nouvelle technologie. Moi, je suis très convaincu de l'utilité et même d'ailleurs du besoin de cette nouvelle technologie. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus refuser d'entendre les questions ou même les peurs de ceux qui peuvent en avoir. Il y a simplement y apporter des faits. Et des raisons objectives. Je crois que le plus grand danger de ce débat, c'est qu'il soit trop politique, qu'il fasse la part trop belle aux fake news, et qu'on ait du mal, au fond, à l'objectiver pour que toute la population soit correctement informée.
C'est le cas en ce moment, c'est un débat politique. Oui, c'est un risque.
C'est un risque, je trouve qu'il est assez politique. Et d'ailleurs, ce qui me frappe, c'est qu'on observe beaucoup ça en France et dans quelques pays européens, mais très peu. Et par exemple, les pays qui sont les plus avancés sur le plan environnemental dans le monde, l'Europe du Nord, la Californie, ont déjà commencé à déployer la 5G. Il n'y a aucun débat politique sur la 5G en Norvège, en Finlande, au Danemark,
en Californie.
Mais
comment vous expliquez ces différences? Il y aurait une sorte de spécificité, est-ce qu'il y a une matière à débat et inquiétude dans nos pays, en France, en Suisse, en Belgique également et pas dans d'autres pays?
Oui, c'est un peu étrange. Peut-être qu'en France, il y a une forme de crispation aussi collective sur beaucoup de sujets. Hein, et la 5G n'en est qu'un parmi d'autres. Voilà, mais en tout cas, nous, en tant qu'opérateurs, je crois que ce qu'il est important de dire, c'est que d'abord, la question n'est pas notre intérêt. Ça, je le dis parce que je crois que c'est très important aussi dans le discours, la petite musique que j'entends. Il n'y a pas de lobby des opérateurs pour pousser la 5G. Il n'est pas dans notre intérêt, à nous, opérateurs, à court terme, de faire la 5G. Ça va nous coûter très cher.
Vous
on va
dire,
nous demander
Stéphane
de faire un
Richard,
gros chèque.
Que vous êtes aujourd'hui un interlocuteur neutre face à moi sur ce sujet?
Non. Je suis engagé.
Oui,
non, je suis engagé. Mais je crois que c'est important de dire que nous ne poursuivons pas un intérêt financier à court terme avec la 5G. C'est même le contraire. Puisqu'on va nous demander de faire un gros chèque là, dans quelques jours pour acheter des fréquences. Ensuite, il y a un investissement important qui va être fait. Vous savez, on investit énormément. Et donc, on ne poursuit pas, nous, un intérêt à court terme. À la limite, on continuerait la 4G, qui est déjà maintenant une technologie rodée, on a déjà fait des investissements. Financièrement, ça serait mieux pour nous. Donc si on s'est engagé dans la 5G, c'est parce qu'on pense que c'est utile socialement et que c'est même d'ailleurs une nécessité pour énormément, je dirais, d'utilisateurs, grand public et entreprises.
C'est intéressant ce que vous venez de dire, utile socialement, c'est-à-dire?
Alors, la 5G, on parle beaucoup des gens qui en ont peur, mais on ne parle pas assez des gens qui l'attendent. Il y a beaucoup de gens qui attendent la 5G. Je vais vous en citer un exemple. Le corps médical, notamment les spécialistes d'ailleurs, qui opèrent sur notre territoire. Vous savez qu'en France, il y a ce qu'on appelle des déserts médicaux, il y a des grandes zones, hein, et ça ne concerne pas que les campagnes d'ailleurs, hein. Il faut comprendre ça aussi, même à la périphérie des villes, il y a ce phénomène des déserts médicaux. La 5G, c'est la technologie qui va permettre de développer massivement la télémédecine, la téléconsultation. Et ça, c'est une utilité évidente qu'on peut citer. Il y a beaucoup d'autres usages.
Mais c'est intéressant
autour de la
que vous ayez employé directement cet exemple concret sur la santé, parce que l'un justement des éléments, des arguments contre la 5G, c'est un argument de santé. Est-ce que par exemple, vous estimez, Stéphane Richard, patron d'Orange, qu'il y a aujourd'hui les garanties nécessaires, les recherches suffisantes pour conclure qu'il n'y a pas un risque pour notre santé?
Dans le monde, depuis 20 ans, il y a 20 000 études qui ont été faites, 20 000 études, par toutes les autorités sanitaires de niveau mondial, international ou national, de tous les grands pays du monde aujourd'hui. Aucune de ces études n'a jamais mis en évidence un risque avéré pour la santé humaine lié à l'exposition aux ondes électromagnétiques. Donc, moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, je me contente de regarder ça. Deuxièmement, l'OMS a fixé un seuil d'émission des antennes à 60 volts par mètre. Nous sommes en France limités à 6 volts par mètre et un passant moyen dans une rue est exposé à 0,5 volts par mètre au maximum. Donc on est dans un écart de 1 à 100 entre la réalité et les seuils qui sont fixés par l'OMS. Je crois que dans ces conditions-là, honnêtement, personne de sérieux et d'objectif ne peut parler de risque.
On va continuer à mettre en avant les argumentaires. Vous avez dit tout à l'heure que les enchères pour l'attribution des fréquences aux opérateurs télécoms démarrent, ça va être ce 29 septembre. À quelles conditions Orange pourrait proposer des offres 5G d'ici à la fin de l'année?
Si on a les fréquences que nous souhaitons avoir, on va tout faire pour. On va démarrer le déploiement physique très vite et donc on sera en mesure de proposer des offres 5G, je dirais, avant la fin de l'année certainement, avec de nouveaux terminaux, de nouveaux téléphones. Et on en a déjà une gamme assez large. Il y en aura d'autres encore dans les
semaines
qui viennent.
Ça va nous coûter plus cher. Ça va coûter plus cher aux clients. C'est un plus sur un forfait.
Ça, il faut laisser aux opérateurs et à la concurrence qui fait rage quand même dans notre secteur le soin de faire des offres qui plairont au public.
On va payer cette avancée technologique, je suppose.
Je ne crois pas qu'on puisse dire ça comme ça, parce que d'abord la 5G, ça va permettre d'avoir des quantités de notamment de data dans les plans beaucoup plus larges. Donc c'est pour toute une série d'usages, on pourra faire les choses beaucoup plus facilement avec la 5G. ça ne sera pas le prétexte à une augmentation de prix artificielle de la part
ça
des opérateurs.
Ça ne devrait pas être.
Non, non, ça ne sera pas.
Ça ne sera pas. C'est une garantie ferme. Stéphane Richard, si un maire d'une ville, un maire écologiste, s'oppose et veut retarder la 5G dans sa région, qu'est-ce qui se passe ? Un exemple, maire de Nantes ou peut-être même la maire de Paris.
J'ai observé avec intérêt que la maire de Paris n'avait pas signé la tribune des 70 élus publiée il y a quelques jours dans un journal.
Et quel signe voyez-vous ?
Je pense que j'y vois le signe qu'elle ne veut pas s'engager aujourd'hui, en tout cas dans ce combat-là, et que peut-être elle a une vision peut-être plus réaliste et plus raisonnable des choses. La situation juridique, c'est que les maires, comme vous le savez certainement, n'ont pas la possibilité, et ils n'ont pas le droit en fait, de s'opposer à l'adoption de la 5G. Bon, ça c'est la réalité juridique, le Conseil d'État arbitrait ça depuis longtemps. Maintenant, il y a un fait politique, il y a aussi l'expression, je l'ai dit, de peur, aussi, enfin de question en tout cas, et nous en tant qu'opérateurs, je crois que ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de la pédagogie, participer au débat, poser des éléments d'information sur la table. Vous savez, une fois de plus, même dans ces villes-là, ce sujet divise. Moi, j'ai été frappé de voir à Grenoble, par exemple, dont le maire a pris des positions un peu tranchées sur la question. Mais il y a toutes les entreprises aussi de la métropole de Grenoble qui disent « mais nous, on veut la 5G, on a besoin de la 5G ».
Mais alors, qui va arbitrer ? C'est l'État, finalement. Si l'État décide, et c'est le cas...
Juridiquement, oui, ouais. C'est la compétence de l'État. Mmh. Et politiquement, c'est la compétence de l'État.
Mais vous allez devoir mettre des équipements supplémentaires. Et dans ces villes où les maires vont dire non, comment vous allez faire ? C'est un bras de fer ?
Une fois de plus, c'est une compétence qui n'est pas une compétence des collectivités, mais moi je veux jouer la carte ici de l'apaisement, de la pédagogie, de la transparence aussi, je crois que c'est très important. Par exemple, avec les mairies écolos, il y a beaucoup de questions sur l'empreinte énergétique. On nous dit, mais oui, mais ça va augmenter la facture énergétique. Le numérique, c'est 4% des émissions de CO2 dans le monde. Et pour une tonne de CO2 émise par le numérique, il y en a 10 qui sont évitées ailleurs. Il y en a 10 qui sont...
Et pour la 5G, sobre en énergie, vous leur dites ?
La 5G est plus sobre en énergie, mais évidemment, les usages augmentent. Mais moi, je voudrais juste rappeler une chose importante ici. Orange a pris un engagement qui est de viser la neutralité carbone en 2040, c'est-à-dire 10 ans avant les accords de Paris. Donc, vous voyez bien que face à un sujet comme celui-là, les entreprises, elles sont aussi ambitieuses, elles se fixent des objectifs élevés et qui sont en résonance avec les attentes de la société.
Il y a aussi quand même un sujet important, Stéphane Richard, qui dépasse là le cadre régional et même national, c'est le problème de la sécurité de nos données et plus largement sur la cybersécurité. Est-ce que vous-même, en tant que leader mondial des télécommunications, vous assurez qu'il n'y a pas un problème sur ce sujet-là ?
Alors, il y a des problèmes sur la sécurité, bien sûr. C'est peut-être même le sujet le plus important du monde numérique, digital, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Cette question de la sécurité, elle passe à la fois par un relèvement des systèmes de protection des entreprises, à commencer par nous. Vous savez, nous, on est attaqué plusieurs centaines de fois tous les jours. Donc,
c'est
ces questions de cybersécurité.
Mais c'est pas rassurant ce que vous nous dites, oui.
Si, parce que ça nous permet de nous perfectionner
d'avancer,
en permanence. On a 2000 experts aujourd'hui qui travaillent dans ces questions-là, pour nous et pour toutes les grandes entreprises françaises. Donc, il faut que cette conscience, elle soit élevée. Et puis, c'est aussi une conscience pour les citoyens. Parce que la sécurité des données, c'est aussi l'affaire de tous.
Ma question, Stéphane Richard, est peut-être plus précise. Est-ce que pour vous, il y a un problème au déploiement du géant Huawei en Europe ?
Il y a un problème géopolitique. Ça, c'est une évidence, puisqu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui ne souhaitent pas voir Huawei sur leur réseau de télécommunications. On va commencer d'ailleurs par la France, même si elle ne le dit pas explicitement, mais c'est quand même le sens des décisions qui ont été prises. Donc, moi, vous savez, à la limite, il ne m'appartient pas de dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Je constate qu'il y a la montée d'une tension très forte entre les États-Unis et la Chine.
Vous êtes un acteur très important dans ce domaine, vous avez votre avis.
Oui, mais je suis chef d'entreprise. Pour nous, c'est le principe de réalité qui nous guide aussi. Et donc, on essaye de coller dans chacun des pays où nous sommes à la réalité géopolitique. En France, on ne déploie pas avec Huawei. On en fait un peu en Espagne, on en fait encore un peu en Afrique. Il y a d'autres pays européens, probablement, on ne le fera pas. Moi, je crois que c'est compliqué, malgré tout, d'être une grande entreprise de technologie sur ces sujets très sensibles quand on est chinois, quand on a une gouvernance qui n'est pas peut-être comparable à celle des grands groupes occidentaux. Donc, je pense que si Huawei veut un jour revenir vraiment dans le concert mondial, il faut qu'il procède à des changements assez radicaux.
Ah, c'est important. C'est-à-dire, c'est une avis, condition.
C'est mon avis personnel. D'observateurs et de chefs d'entreprise. Ouais. Moi, j'ai de l'estime pour les équipes de Huawei, parce que je les connais bien, et ce sont des vrais professionnels, et c'est des gens qui vous accompagnent aussi dans la durée. Mais je pense que le système de l'entreprise, sa gouvernance, ou son absence de gouvernance d'ailleurs, crée un problème majeur quand on est dans un secteur aussi sensible que la technologie.
Je prolonge, oui. Et je conclue d'ailleurs, parce qu'il y a l'application de partage de vidéos TikTok qui nous espionnerait. Est-ce qu'il faut l'interdire en Europe ?
Je crois que non, pour le coup non. Je pense qu'il faut qu'il y ait des garanties là aussi. Il faut relever certainement le niveau des garanties qu'on demande. Moi, je ne veux pas diaboliser telle ou telle application ou telle entreprise parce qu'elle est chinoise.
Ou tel pays, oui.
Oui, bien sûr. En même temps, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Et on voit que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, quand il s'agit de technologie ou quand il s'agit d'échanges commerciaux, on a peut-être été un petit peu naïf ces dernières années ou ces dernières décennies.
Il ne faut pas être naïf. C'est un message notamment à la Chine et pas seulement. Merci Stéphane Richard, patron d'Orange, leader mondial des télécommunications. Et vous avez remarqué qu'on a consacré cet entretien entièrement à la 5G. C'est un débat de fond qui mérite qu'on s'y attarde. Merci encore.
Merci, merci. Sonia Mabrouk, il est 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez sur Europe 1, un nouveau journal avec Hélène Zélani, suivi de Notre Santé avec le docteur Jimmy Mohamed. On va reparler de cette journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, un nouveau journal avec Hélène Zélani.
Le protocole sanitaire dans les écoles maternelles et élémentaires allégé à partir de demain. L'objectif, avoir moins de classes fermées. Lorsqu'un enfant sera testé positif, la classe se poursuivra pour les autres élèves qui ne sont plus considérés comme cas contact. En revanche, la fermeture sera possible si 3 cas sont confirmés. À Paris, les motards n'ont plus l'obligation de porter le masque sous leur casque à condition de circuler visière baissée. En Espagne, des restrictions pour quelques 850 000 personnes de la région de Madrid. Interdiction désormais de sortir de leur quartier, sauf pour des raisons de première nécessité, le travail, l'école des enfants ou un rendez-vous médical. Deux personnes toujours portées disparues dans le Gard ce matin après les violentes intempéries du week-end. Des centaines d'habitants ont dû être évacués. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est rendu sur place, souhaite que les maires puissent demander l'état de catastrophe naturelle dès aujourd'hui. Boulanger, le spécialiste en électroménager et multimédia, propose 1000 contrats pour les jeunes à partir de ce lundi. L'entreprise, dont le chiffre d'affaires a été divisé par deux pendant le confinement, a vite remonté la pente et s'attend pour 2020 à un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros, plus que l'année dernière. Les 1000 jeunes seront recrutés via l'alternance ou l'apprentissage. Rendez-vous est donné à 14h à Béthune, dans le Pas-de-Calais. Les ministres du Travail, Elisabeth Borne, et de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, se penchent sur la situation de l'usine Bridgestone, qui doit fermer. Rencontre avec les élus locaux, les représentants des salariés et la direction Europe du fabricant de pneus. La Cour d'assises spéciale se penche à partir d'aujourd'hui sur l'attaque de l'hypercachère de la Porte de Vincennes le 9 janvier 2015. 18 personnes avaient été prises en otage, 4 tuées. La politique, le numéro 2 de La République En Marche, Pierre Person, démissionne. Pour lui, le parti présidentiel ne produit plus d'idées neuves. Il demande aux membres de la direction de le suivre pour créer un électrochoc. Aux États-Unis, Joe Biden accuse Donald Trump d'exercer le pouvoir de façon brutale en essayant de nommer un nouveau juge à la Cour suprême avant la présidentielle, à la place de Ruth Bader Ginsburg, décédée la semaine dernière. Le candidat démocrate parle d'un abus de pouvoir qui pourrait plonger le pays dans une crise constitutionnelle. Le plus beau des cadeaux d'anniversaire pour Tadej Pogačar, le cycliste slovène, vient de remporter le Tour de France à 22 ans aujourd'hui. Et puis à Roland-Garros, c'est le coup d'envoi des qualifications et 5 joueurs sont déjà exclus. 2 parce qu'ils sont positifs au Covid et 3 cas contact, on ne connaît pas leur nom.
Merci Hélène Zélani. 8h34, Laurent Cabrol avec nous pour le temps.
C'est toujours agité dans les régions du sud et ça le sera fort heureusement beaucoup moins que ces jours derniers. Hein. Pour donner un exemple, à Saint-Jean-du-Gard, le Gardon à 11h du matin et à 2 jours faisait 43 cm et à 12h30 il était à 6 mètres. Une véritable vague qui ressemble à un tsunami parce que c'est arrivé de manière à une vitesse folle et c'était ce qu'on appelle les crues éclairs. Donc aujourd'hui, eh bien, il y a déjà des orages. Il y en a dans les Landes, il y en a un petit peu du côté de la Gironde et donc dans ce département, ils ne resteront pas en l'état puisque ces orages ont gagné pratiquement à la fois le Poitou-Charentes, le Massif Central, la vallée du Rhône, le tout le sud-ouest, la Corse. Ils seront ponctuels, elles ne seront pas en permanence, bien sûr. Sur la Bretagne, les Pays de la Loire, le Berry, la Franche-Comté, la région lyonnaise, c'est une zone intermédiaire, j'en parle depuis ce matin, mais c'est vrai, parce qu'il n'y aura pas trop d'orages, il n'y aura pratiquement pas, nous n'aurons simplement que des averses. Enfin, sur le Nord Picardie, la Normandie, la Champagne-Ardenne, la région parisienne, la Lorraine, l'Alsace et la Bourgogne, c'est fou. Delta du Rhône, Bouche du Rhône et Languedoc-Roussillon. Dans toutes ces régions, il y aura du soleil. Température maximale, merci Cabrol, 22 à 27 degrés.
Merci Laurent. Laurent Cabrol pour la météo.
Mathieu Béliard.
Pardon, monsieur. Dans un instant, on prend soin les uns des autres. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Et en cette journée de lutte contre la maladie d'Alzheimer, il nous dira que 40% des signaux de démence pourraient être évités. Notre planète avec Fanny Agostini et Nicolas Canteloup pour la revue de presse avant 9h. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1 à 8h37, nous retrouvons le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Et ce matin avec vous, nous allons prendre soin de notre cerveau en cette journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Est-ce que cette maladie peut être évitée ou est-ce qu'on peut retarder le plus possible son apparition ?
Eh bien oui, je vais vous parler de deux études très intéressantes pour ça. La première, c'est celle de l'Institut du cerveau, l'ICM, qui a recruté 318 personnes âgées qui n'avaient aucun problème de mémoire. Elles vont plutôt bien. 5 ans plus tard, 88 d'entre elles ont des lésions à l'IRM typiques de la maladie d'Alzheimer. Sauf que seulement 15 d'entre elles ont développé des symptômes, ce qui veut donc dire que vous pouvez avoir des lésions au niveau du cerveau, mais pas forcément de symptômes. Donc déjà, peut-être revoir les critères diagnostiques, mais aussi peut-être qu'il se passe quelque chose dans nos comportements. Et puis, il y a une autre étude très célèbre, c'est une histoire américaine, des religieuses, notamment la sœur Marie. Sœur Marie a vécu jusqu'à 101 ans avec des capacités intellectuelles intactes. Intégrale, elle était parfaitement cohérente, aucune démence. Et puis, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle a donné son corps à la science et ils lui ont fait une biopsie cérébrale et on se rend compte qu'elle avait des lésions très importantes de la maladie d'Alzheimer. Donc, elle a vécu jusqu'à 101 ans,
et aucun mais avec signe.
Aucun symptôme. Sauf que quand on s'intéresse au mode de vie de Sœur Marie, eh bien, elle a continué d'enseigner les mathématiques jusqu'à 84 ans. Ce qui veut dire aussi que nos comportements peuvent peut-être influencer l'évolution naturelle de cette maladie.
Et concrètement, c'est fascinant cette histoire d'une religieuse de 101 ans qui avait concrètement dans son cerveau tous les signes de la maladie, mais pas les symptômes.
Exactement.
Fascinant. Et concrètement, est-ce qu'on a des facteurs de risque de la maladie qu'on pourrait éviter ?
Eh oui, 40% des maladies, des démences, ou pourraient être retardées ou éviter au travers de gestes simples, c'est quasiment les mêmes facteurs de risque que ceux qu'on pratique pour éviter un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. C'est d'abord l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, l'inactivité, le fait d'avoir peu de relations sociales avec les autres, le tabac, au travers de quelque chose d'assez fascinant, c'est que la nicotine entraîne sur votre cerveau ce qu'on appelle une perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. Alors ça paraît très compliqué, mais c'est très simple. Vous avez dans votre cerveau une barrière qui vous permet de protéger le cerveau du milieu extérieur. La nicotine fait que cette barrière est perméable et que les toxines vont pénétrer votre cerveau et peuvent vous donner une maladie d'Alzheimer et d'autres pathologies évidemment. Mais aussi, c'est pas tout, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 nouveaux facteurs de risque. Le premier, c'est d'avoir des traumatismes crâniens à répétition. On sait que les militaires, notamment ceux qui étaient revenus d'Afghanistan suite à de nombreux traumatismes crâniens, avaient plus de maladies d'Alzheimer que les autres. Même chose pour les footballeurs américains, les boxeurs et peut-être même qu'il faudrait éviter de mettre des coups de tête au football, mais ça c'est un autre débat. Et puis aussi la consommation d'alcool qui va aussi endormir votre cerveau, vos neurones et faire que votre cerveau va s'atrophier. Et puis l'exposition à la pollution, tout ça, c'est des facteurs de risque assez simples qu'on pourrait peut-être éviter. En attendant, il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est de faire un don pour la fondation Alzheimer pour permettre de soutenir la recherche. Et puis aussi c'est déductible des impôts, 66% des dons sont déductibles. Donc voilà, c'est un petit geste concret que vous pouvez faire, car la maladie d'Alzheimer, c'est 900 000 personnes en France et c'est 250 000 diagnostics chaque année. Donc ça nous touche tous de près ou de loin.
Et les aidants, n'oublions pas les aidants, nous leur avons donné la parole ce matin sur Europe 1. Jimmy Mohamed, merci beaucoup. On vous retrouve à 15h sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez, 8h40. Notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Drôle de projet ce lundi matin. Fanny, vous nous dites qu'on va cloner des séquoias et que c'est bon pour le climat.
Oui, et pour ça je vous emmène dans la Sierra Nevada, berceau du séquoia. C'est là où l'on trouve les papilles les plus résistantes des arbres géants, ayant atteint un âge vénérable de plusieurs millénaires, et ils intéressent aujourd'hui la science pour tempérer le climat du futur. Et pour cela, le clonage est la méthode utilisée. Sachez-le, plus de 300 000 clones de séquoias ont déjà été plantés partout dans le monde.
En quoi ces clones ont-ils la faculté de nous aider sur la question climatique ?
Déjà parce que les individus sélectionnés sont les plus résistants et s'ils ont survécu pour certains jusqu'à 3000 ans se moquant des sécheresses et des incendies, c'est bien que leur ADN contient quelque chose de particulier, d'hors norme. Et ce sont ces mastodontes que les scientifiques escaladent pour aller chercher de précieux échantillons. Échantillons servant ensuite à dupliquer ces arbres qui conserveront le même code génétique que leurs ancêtres. Replanter des arbres majeurs est stratégique pour les décennies à venir car ils sont des pompes à carbone d'une efficacité redoutable. Imbattable face aux autres espèces dont les ramures ne s'élèvent pas au-dessus de 20 mètres.
Mais Fanny, nous aussi, nous pouvons planter des séquoias ?
Mais oui, c'est ça qui est bien. L'automne qui arrive, en plus, c'est la meilleure période pour le faire. En France métropolitaine, sachez-le, le climat tempéré réussit très bien au séquoia. Et vous pouvez procéder pour cela de deux façons. Alors, la plus facile, acheter un petit arbre, un petit séquoia dans une pépinière spécialisée, le planter tel quel. Ou la version la plus ambitieuse, et je dirais même la plus gratifiante à portée de tous, c'est de semer des graines que vous pouvez récupérer, par exemple, dans une pomme de pin de séquoia. Et ce qui ne vous laissera pas sans émotion, j'en suis sûre, c'est de voir, après quelques jours en terre, une toute petite pousse de 2 cm jaillir, un bébé séquoia qui deviendra un jour un arbre de plus de 100 mètres de haut et de 10 mètres de large que vous ne verrez jamais de votre vivant, mais que pourront côtoyer vos arrière-arrière-arrière et sûrement même encore arrière-arrière-petits-enfants. Une façon de transcender les âges et de rompre avec le rythme effréné et autocentré de notre temps, en pensant pour une fois au très très long terme et surtout à ceux qui nous succéderont.
Merci Fanny Agostini, Notre Planète sur Europe 1, 8h42. Vous restez avec nous à suivre Nicolas Canteloup. Julie, c'est la revue de presque. Bon réveil.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour l'actualité du jour.
Oui, oui, ma chère Julie, l'actualité du... C'est Mathieu Béliard, pardon, je me suis présenté, bienvenue sur Europe 1. Et bonne fête à moi et à tous les Mathieu.
Tous
les Mathieu, bien sûr, on les embrasse. Mathieu Noël, Mathieu Chédid, et oui, je suis fan de Mathieu Chédid. Un musicien d'ailleurs, comme moi, mais lui, avec une carrière. Voilà. Oui, l'info du jour. C'est Fanny Agostini qui nous l'a révélé, cette bonne nouvelle pour la planète. N'hésitez pas, si vous habitez chez vous, dans un appartement, à planter un séquoia. Ah, dans quelques années, c'est une info utile pour nos auditeurs. Il fera 100 mètres de haut dans peu de temps et 10 mètres de large. L'occasion pour vous d'avoir une bonne raison de déménager. Et puis, l'info du jour, c'est ce chiffre. 930 000 euros de feuilles d'or. C'est le montant, vous l'avez compris, des travaux du bureau de notre président de la République, Emmanuel Macron, le bureau qui s'appelle le Salon Doré, on l'a tous vu à la télé, le Salon Doré. Ouais. On espère que le président Macron ne va pas attraper, lui, le Covid et être hospitalisé comme Boris Johnson, parce qu'à tous les coups, à l'hôpital, il va vouloir un staphylocoque doré, lui aussi. Même pour les maladies, vous l'avez compris, notre président a des goûts de luxe.
Bah,
et puis, Julie.
Oui.
L'autre info, oui, parce qu'il y en a deux.
Ah, il y a deux infos.
Deux pour le prix d'une. C'est le Tour de France. Le Tour de France, c'est la victoire du Slovène de 21 ans, Tadej Pogacar. Devant Primo Roglic, c'est la première. Oui, je comprends, chers auditeurs. Oui, c'est la première fois qu'il faut être autant dopé que les cyclistes pour prononcer le nom des cyclistes. Alors, bien sûr, il n'y a pas de Français. Vous l'avez remarqué sur podium.
On a remarqué.
Mais c'est pas grave. C'est pas grave car bientôt il y a Roland Garros pour se rattraper.
Oula.
Pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bon, pardon. Et puis l'autre info. Allez, il y en a trois. Il y en a trois aujourd'hui. Pour le deux, pour le prix d'une, et il y en a trois. Ce sont les pluies. Les pluies. Écoute le monde changer, c'est notre slogan. Écoute le monde couler, c'est notre nouveau slogan, parce qu'à Europe 1, on s'adapte. Voilà, les pluies, notamment dans le Gard, nous en avons parlé avec Laurent Cabrol dans le Gardon, balayé par des pluies diluviennes. On espère que cet épisode est derrière nous, cher Laurent.
Écoutez, effectivement, du côté du Gard, puis j'ai parlé aussi du Gardon, parce que j'aime bien la pêche. Ce week-end, c'est pas folichon, hein. La pluie aura causé des millions d'euros de dégâts, il faut le rappeler. La flotte a emporté des ponts, des routes. L'eau vraiment a ravagé les habitations. Non, franchement, l'eau, c'est vraiment une saloperie. Hein. Je sais pas comment vous faites pour boire cette merde, hein, franchement. Pardon, mais moi je vais dire comme Darmanin, la drogue, avec la drogue, hein, je le dis, moi, l'eau, c'est de la merde. Voilà, j'ai dit. Voilà. Moi, je la boycotte depuis 20 ans, c'est ça, c'est pas compliqué. Hein. Puis, franchement, le vin, ça n'a jamais balayé une maison. Hein, quand c'est de l'eau, non, bon, on peut en parler quand même de 2 minutes, parce que c'est un sujet important. Hein. Quand c'est de l'eau, les crues exceptionnelles, c'est dramatique quand c'est de l'eau. Par contre, quand c'est du vin, une crue exceptionnelle, c'est
ah, joli, bien, bravo, ouais, bravo.
Le vrai Cameroun,
très très bien. Ah oui.
C'est Arnaud Demange qui m'a un petit peu aidé sur ce coup-ci. Voilà. Bon, donc voilà. Alors, à un moment, faut remettre. Non, parce qu'il faut dire les choses. Faut remettre l'église au milieu du village. Hein. Surtout si elle a été emportée à 3 km plus loin par la crue. Hein.
Oui, bon, mais c'est bon. Allez, merci.
Je parle de l'église.
Hein. Oui, bon, on a compris. Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Les crues l'ai cru, magnifique. Hein. Allez, Bruno Le Maire a été testé positif au Covid. On est en ligne avec le ministre de l'économie. Bonjour, monsieur Le Maire.
Allô? Oui, oui, bon, pardon, ça marche?
Oui, oui, ça marche.
Vous êtes à 5G? Oui. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour, bonjour Monsieur Béliard, et bonne fête à vous. Hein.
Merci,
bonjour
monsieur
à tous vos aimables sous-fifres. Écoutez, moi, malheureusement, sur ce sujet, il n'y a pas de débat. J'ai été contaminé. Je ne comprends pas d'où cela vient. Ministère de l'économie, peut-être le savez-vous, mais personne ne m'a touché, parce que personne ne me touche en général, personne ne... Je me parle vraiment, personne ne se précipite pour déjeuner avec moi. On n'est pas très lien social dans la comptabilité. C'est quand même pas de bol de choper le Covid alors que je n'ai pas d'amis.
Alors, comment vous avez découvert que vous aviez le Covid, Bruno Le Maire?
Écoutez, c'est l'autre soir, je me suis senti comme l'économie française. Chaos. Totalement plat, limite mort.
Non, mais non, racontez-nous, comment les symptômes sont arrivés?
Écoutez, j'étais à table, chez moi, je mangeais une blanquette. Et quand soudain, j'ai dit à ma femme Pauline, oui, je l'appelle Popo, je lui dis « Popo, je crois que je n'ai pas de goût ». Et là, elle m'a dit mais bien sûr, mon Bruno, tu as vu la façon dont tu te coiffes? Une raie sur le côté en 2020, tu mets des pantalons framboises et des pulls sur les épaules nouées, et tu aimes la poésie allemande et les disques d'André Rieu. Évidemment, Bruno, tu n'as pas de goût. Elle a été cache avec moi, ma popo. Sale tête Pauline, va.
Bruno Le Maire, vous savez que la journaliste de CNews, Laurence Ferrari, a été placée à l'isolement après vous avoir interviewé.
Mmh. Ah oui, oui, c'est fou ça. Hein. Bah, oui. Après la fermeture de l'usine des pneus Bridgestone, j'ai mis une Ferrari à l'arrêt. Quand ça veut pas, ça veut pas.
Ça veut pas. Merci. Bon courage à vous, monsieur le maire. Marine Le Pen est très en colère contre l'entreprise Bridgestone qui veut quitter la France. Bonjour, madame Le Pen.
Oui, bonjour, madame. bonjour, monsieur Cavrol. Et, pardon, comment ne pouvais-je pas vous voir? Bonjour, jolie métisse. Ah, et puis bonjour à mon. Bonjour à mon docteur préféré, Bobby Mustapha.
Ah, ça va rester ça, j'adore.
Mon joli berbère du Connecticut. Pardon, madame, revenons au sujet. Bridgestone.
C'est ça, oui.
Bridgestone, c'est bien la preuve, madame, est que nous ne sommes pas racistes au Rassemblement national.
Pourquoi?
Les gens de Bridgestone sont des étrangers, madame, et pourtant, nous souhaitons vivement qu'il reste en France.
Ah,
je demande donc solennellement, madame, aux Anglais de Bridgestone de rester sur notre territoire.
Non, mais ce sont des Japonais, hein, pas des... ce sont des Japonais.
Ah oui?
Oui.
Bien sûr.
Ah bah oui, oui, oui.
Oui, mais écoutez, oui, mais écoutez, ne me regardez pas comme ça, les gros yeux, je suis toujours la même Marine, voilà, je ne pose pas plus mes dossiers que l'année dernière, voilà. Bon, écoutez, j'allais me recoucher parce que je suis un peu crevé, moi. Tout à l'heure, je l'ai métisse.
Non, bah d'accord.
Ça va être ta fête, je l'ai
métisse. Ah bah oui, la Saint-Mathieu, ça se fête chez Marine Le Pen. Merci à vous.
Chambre 315.
Allez, on va maintenant prendre des nouvelles de nos amis du Gard hein, qui ont été victimes d'inondations. Notre ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place. Bonjour Gérald Darmanin.
Oui, bonjour les biloutes. Vous avez vu, je me suis rendu sur place, j'y suis allé alors que je n'avais même pas pied. Oui, je suis partout. Hein. Puis vous savez, les inondations, c'est un sujet super parce que c'est le seul sujet où les Français ne peuvent pas nous engueuler. Hein? Ce n'est pas de notre faute, ben oui, les inondations. Autant sur la délinquance, la violence, c'est nous. Autant la pluie, c'est plutôt Evelyne Delia et M. Cabrol. Voilà. Bon, je vais faire ma déclaration officielle. Je m'adresse solennellement aux rivières, aux fleuves, aux affluents. L'impunité, désormais, c'est fini. Le débordisme des rivières, la radicalisation de certains cours d'eau, c'était avant. Je le dis très clairement. Les inondations, c'est de la merde.
Oh, mais vous n'allez pas faire les mêmes déclarations sur tous les sujets, là. Hein, c'est de la
merde.
Oui,
non, mais comme j'ai fait le buzz sur la drogue, c'est de la merde, je décline mon tube. La drogue, c'est de la merde, c'est pas notre ami pour la vie.
Oui, bon, bah merci, allez, c'est bon. Merci, monsieur le ministre. Allez, on dit Emmanuel Macron très agacé contre ses ministres qui n'en font pas assez. Il est très inquiet sur la question des tests. On va en parler avec lui. Bonjour, monsieur le président, comment allez-vous?
Comment allez-vous ? Cette expression, comment allez-vous, date de 1458 ou 1732, voilà, on s'en fout, et qui désignait la fréquence des selles.
Ça,
comment
vrai,
allez-vous
oui.
signifiait littéralement combien de fois allez-vous à la selle dans une journée. Et... c'est pas vrai,
mais
merde.
C'est tout à fait
pas
ça.
C'est vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Non, je me suis déjà vrai. Tapé tout le week-end à Stéphane. C'est bon. Non, pardon. Ah oui. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour. Allez, laissez le président tranquille, Stéphane, s'il vous plaît. Hein. La presse le dit, vous êtes très énervé en ce moment.
Oui, oui, non, voilà, j'ai juste envie qu'on casse pas les couilles, voilà, c'est tout. Casser les couilles, oh, expression triviale dont l'origine vient de la castration en 1738. Non, ta gueule, Stéphane, ta gueule. Pardon, Mme Julie, excuse-moi, je m'emporte. Comment vais-je, disiez-vous? Eh bien, écoutez, ma foi, formidablement bien.
Ah bon?
Oui, le chômage explose, là. La deuxième vague arrive, les écolos m'emmerdent avec la 5G, il y a des queues de 3 km devant les labos, les Français ont le temps de mourir de vieillesse avant de recevoir leurs résultats, et mon ministre de l'économie, Bruno Le Maire, censé montrer l'exemple, a chopé le Covid. Pourquoi ça irait mal, Madame Julie?
Les laborantins sont débordés, les fils s'allongent hein, devant les labos, et ça va coûter des millions d'euros, hein, car c'est remboursé à 100% cette histoire.
Ah, 100%, mais ça, quand ouais. c'est gratos, les Français se précipitent, même pour se faire empaler la narine. Hein, vous savez que ça me coûte un pognon de dingue.
Ah, encore. Et vous avez comparé les adversaires de la 5G à des Amish. C'est une phrase qui a fait beaucoup de bruit. Hein.
Oui, bonjour, monsieur le président.
Ah tiens.
Oh merde, un Amish.
Mais non, c'est pas un Amish, hein, c'est Jean Lassalle. Allez, on vous écoute, monsieur Lassalle. Vous aviez une déclaration à faire.
Oui, monsieur le président de la République, monsieur Macron. Vous avez insulté les Amish français. Et les gens des campagnes, nous sommes des millions à vivre en sabot et à nous déplacer en calèche. Et nous sommes, je le dis, je le redis, contre l'installation de la 5G.
Mais pourquoi, Jean Lassalle?
Parce que nous avons une raison suffisante. Nous l'avons déjà.
Ah bon?
La 5G, 5G.
Tiens, tiens, ah bon?
Génisse, Gorée, Groin, Rennes, Niolle.
Je vous confirme que sur la Niolle, on est en très très haut débit. Hein.
Emmanuel Macron, un petit mot tiens, sur Jean Lassalle.
Jean Lassalle Vous voulez que je vous dise un petit mot sur Jean Lassalle
ben
vous,
oui.
savez qui vous savez quoi,
quoi
On dirait Jean Castex bourré, mais en plus avec un museau.
8h57, merci Nicolas Canteloup et ses auteurs. Julie, on vous retrouve demain avec Nicolas
demain,
pour la revue
oui.
presque comme tous les jours à 9h moins le quart, bien sûr. Il est là, en studio. Philippe Vandel pour Culture Média, c'est la matinée qui continue. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu. Notre info média du jour, ce sera la première interview radio du patron de l'information de TF1, Thierry Tulier. Il va revenir évidemment sur le départ de Jean-Pierre Pernaut du JT de 13h et de l'arrivée de sa remplaçante, Marie-Sophie Lacaro, alors qu'elle présentait le JT d'en face sur France 2 et qu'il l'aura shippé. Laetitia, c'est une série événement ce soir sur la 2. C'est une série qui revient sur un fait divers qui avait marqué l'année 2011, le viol et le meurtre d'une jeune femme de 18 ans. On sera avec le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade et le comédien Noam Morgetzen qui joue le rôle du tueur. Et puis Florent Père, l'humoriste, pour un spectacle, très spécial entre One Man Show et comédie musicale. Musique signée Pascal Obispo.
A tout de suite pour Culture Média avec Philippe Vandel, 8h58 sur Europe 1. Je vais vous souhaiter une belle journée. À présent, moi je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter. Thank you.